Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Allemagne, une semaine après le particulier Grand Prix de Grande-Bretagne. Eh bien, on
a eu l'explosif Grand Prix de Grande-Bretagne.
L'explosif. Non, là c'est bien, on a eu un beau Grand Prix d'Allemagne.
Ouais, j'aurais quand même aimé que les pneus explosent à un moment donné. Juste pour voir la solidarité entre pilotes à l'œuvre, tu vois, admirer ces pilotes qui disent « Non, nous ne roulerons pas voilà. !» Unanimement, en harmonie.
Sauf un.
Oui.
C'est pour ça que j'aurais bien aimé aussi que...
Et donc, si c'est sauf un, ça aurait été sauf deux ou trois, sauf quatre ou cinq, en fait, sauf 23, quoi. Oui, parce que je compte pas Chilton, qui participe jamais au Grand Prix, ça tout le monde le sait.
Et donc, bonjour Dino, déjà, hein, après
oui,
ta
bonjour.
Demi-absence, parce que t'étais censé être absent la semaine dernière, mais en fait, t'as quasiment fait la moitié de l'émission.
Et j'ai fait le montage. Et en parlant de montage, j'en profite pour nous excuser pour la fin de l'émission, où il y a eu un petit pépin de montage et de qualité sur les 15 dernières minutes. Il faut savoir que depuis quelques semaines, on essaye de faire un montage collectif.
Oui.
Voilà, tous les chroniqueurs s'y mettent un tout petit peu, et là, il y a un chroniqueur que nous ne dénoncerons pas, hein, n'est-ce pas, une fois qui donc a essayé de faire un petit bout de montage, et une fausse manip fait que voilà, il y a eu un décalage sur les pistes. Bon bah c'est pas grave, vous avez eu l'essentiel.
Oui, parce que malgré la longueur de l'émission, elle a été montée. C'est important à dire. Moi je sais pas comment vous avez fait, moi j'ai donné mon morceau, il durait, je me disais ouais c'est bon, ça fait un peu plus de 2 heures. Ah oui. Mais visiblement, ça vous a plu. Donc, c'est ça le plus important. Et Dino, nous ne sommes pas seuls.
Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas seuls.
Mm-hmm.
Nous sommes avec Quentin.
Bonjour.
Bonjour, Quentin. Alors, Quentin qui présente la revue Twitter, puisqu'il est très actif sur Twitter.
Oui.
Oui, pas forcément pour les bonnes raisons. Mais bon, on va dire que sur Twitter, c'est pas là où je suis le plus objectif.
On nous avait dit un jour, ça sera un fan de Lewis Hamilton.
Bonjour, Fab.
Non, mais Fab, c'est pas vraiment un fan, c'est... Il est là, il est posé devant sa télé, il regarde, quoi, c'est tout. Il vit pas vraiment la F1, Fab.
Mais est-ce que, Quentin, tu es aussi fan du chien de Lewis Hamilton?
Non.
Ah ouais, je préfère, même. Il a du chien, ce chien.
Alors, mais si on a commencé à en parler, mais qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Très beau Grand Prix. Il y a eu de l'action près du début à la fin, je trouve.
Mm-hmm. La surprise, c'est vrai que ça s'est battu jusqu'à la fin, voiture en marche arrière, oui c'est pompante le Nürburgring.
On a retrouvé un tout petit peu la saveur des courses de l'an dernier, c'est-à-dire ce mélange entre stratégie et quand même des pilotes qui peuvent attaquer en piste, voilà, c'était quand même un peu mieux que ce à quoi on a eu droit depuis le début de l'année.
En tout cas ça faisait du bien après le dernier Grand Prix qu'on avait eu, ça c'est clair.
Je crois qu'il y a eu pas 2 ou 3 arrêts, pas plus, donc c'est bien aussi.
Oui, au niveau des stratégies, oui, c'est resté sur du 2-3, je regarde. Oui.
Mais ils étaient partis sur 2 arrêts, en fait, ils ont quasiment tous fait 3 arrêts, il y en a un qui a fait 4, je crois que c'est Max Chilton qui a fait 4 arrêts.
Bah après, il y a eu la safety car qui a un peu bouleversé les stratégies aussi. Hein.
Bah, c'est ce que disait Paul Embury, c'est que il pense que les pilotes auraient quand même pu faire 2 arrêts. D'ailleurs, Kimi Raikkonen a dit qu'ils auraient pu s'éviter de faire le dernier arrêt.
Et messieurs, on va commencer comme chaque semaine par l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et cette semaine, messieurs, le chiffre, écoutez-le bien, c'est le chiffre 74-631.
74-631.
Oui.
Avec une virgule entre les deux ?
C'est pas une virgule entre les deux.
Un slash ?
C'est pas un slash. Enfin, ça pourrait, mais ça, c'est pas un slash. C'est un tiré.
64.
Entre les deux.
Un tiré. 74.
630.
Tiré. C'est un numéro de série?
Non.
Voilà, Quentin, maintenant, je te laisse faire. Parce que...
Bon, ben, la question habituelle, un rapport avec la F1?
Non.
C'est manufacturé?
Ce n'est pas manufacturé.
Est-ce que ça peut être facturé?
Non.
Non.
Est-ce que les deux nombres représentent la même chose?
Pas exactement, non. Même pas du
tout. C'est deux nombres qui sont tout le temps l'un à côté de l'autre ou c'est deux nombres qui sont...
Non, c'est un code. Le 74 veut dire quelque chose, le 631 veut dire quelque chose.
74, c'est la Haute-Savoie.
Oui, c'est vrai.
631,
pas la Haute-Savoie.
C'est...
Non.
La Savoie. 74, c'est pas la Savoie.
Ben, ça nous concerne pas là, c'est pas un département.
Ah d'accord. Oui, j'ai été en train de chercher le département 631. Est-ce que ça désigne des objets?
Non.
Non.
Ça ne désigne pas, ça concerne des personnes. Ça concerne même tout le monde.
Ça concerne des personnes.
Ça concerne tout le monde. Tous les êtres humains sur Terre.
Oui.
Sans exception.
Ce code-là, précisément, il se rapporte à la France, mais ça concerne tout le monde.
Alors, attends,
les autres pays ont chacun leur code.
Oui, ça varie en fonction des pays.
Et le code, c'est 74-631.
Oui. Que c'est une position géographique?
Non. Alors, parce
que. Une position du Kama Sutra?
Parce que j'ai l'information, je pourrais vous dire, si ça avait été en Belgique, j'aurais dit le 488. Sans tirer.
On va tout de suite évacuer, je sais que c'est pas ça, mais bon. Est-ce que c'est le code du début du numéro de téléphone, non?
Non, voilà.
C'est un rapport avec les communications?
Non.
Est-ce que ça concerne de l'électronique?
Pas du tout.
Ah, pour une fois, est-ce que ça concerne un animal?
Non, parce que ça concerne les humains. Sauf si tu considères les humains comme des animaux.
Ah, nous sommes tous des bêtes.
Donc dans ce cas-là, oui.
Tous les hommes.
Est-ce que c'est un classement? Un grand de classement?
Il y a une notion de classement dans la façon dont est fait le code, mais le sujet n'est pas un classement.
Parce que c'est un code. C'est un code qu'on peut être tous. Enfin, on est tous directement concernés par ce code-là.
Ah oui!
Enfin. Genre, ça pourrait être un code qui est sur des papiers d'identité, le début d'un code. Et tous les passeports français commenceraient par 74-631.
C'est pas exactement cet ordre d'idée, mais pour donner un indice, cette année, normalement, ça devrait commencer par 13.
Ah, donc c'était en 74.
Le 7 juillet 74.
Le 7 juillet 74.
C'est 631 trucs, 131 choses qui se sont passées le 7 juillet 74.
Non, mais ça doit être la 631e, c'est comme ça que doit fonctionner le code.
C'est une naissance?
Non.
Voiture? Un numéro de série de voiture?
Pas de voiture. Mais c'est quelque chose d'aussi important que la naissance.
La mort?
Non, c'est quelque part entre les deux.
Le mariage?
Non.
C'est pas le mariage, c'est pas la naissance, c'est pas le baptême, c'est pas la mort. Entre les deux.
C'est une loi, en fait. C'est le code de la loi.
C'est une loi. Ah, bah, c'est la loi sur l'avortement, non?
Non.
Non? La peine de mort, la loi. Non, 74. Bah, 74, ça pourrait être l'avortement.
Ça pourrait être.
La pilule.
Non.
La contraception.
Heureusement que j'ai dit que ça connaît tout le monde, hein.
Bah, et tout le monde se contraceptionne. Il faut d'ailleurs tous se contraceptionner. Vous qui nous entendez, surtout toi, jeune homme, ne pense pas qu'il suffit que mademoiselle mette la pilule. Et toi, mademoiselle, ne suffit pas que monsieur, il faut qu'il mette simplement la capote. C'est les deux qui doivent être concernés. On met toujours deux capotes pour la couverture. Voire trois, pour garder celle du milieu. Non, n'écoutez pas.
Les débuts étaient bien. Les débuts étaient super bien.
Donc c'est une loi aujourd'hui qui existe dans tous les pays.
Oui, elle n'est pas forcément identique partout à la France. Beaucoup de pays sont identiques à la France, mais c'est dans tous les pays.
C'est une loi sociétale?
Précise-moi sociétale.
Bah, c'est genre marié, avortement, abolition de peine de mort.
Oui, et c'est ce genre d'idée.
C'est quelque chose de précis ou quelque chose de plutôt général?
Bah, c'est général dans le sens où ça touche tout le monde, vraiment tout le monde. Mais après, ça positionne quelque chose à un endroit précis. Endroit, c'est pas un lieu.
Ah,
hein.
C'est pas le droit de vote sur l'âge légal du vote à 18 ans.
Ouais, je vais l'accepter. En effet, le 7 juillet 74 était publié au journal officiel la loi faisant passer la majorité. C'était combien avant?
21.
C'était 21, elle passait à 18 ans.
Ah, le bon vieux temps.
Voilà. Et donc, en effet.
On avait 20 ans, on était mineurs.
Et en effet, donc, parce que j'ai le titre. En Belgique, ça n'a été fixé qu'en 90, c'est aussi à 18 ans, par l'article 488. En 1990. À noter qu'au Québec, ils sont aussi à 18 ans, mais eux, ils sont passés en 71. Et en Suisse, c'est aussi 18 ans, mais depuis 96.
Hein. Et il y a combien de pays dans le monde où c'est à 18 ans?
Alors, la majorité des pays sont à 18 ans. J'ai pas le chiffre précis, mais il y en a facilement une centaine. La majorité des pays sont à 18 ans. La majorité étant l'âge auquel un individu est juridiquement considéré comme civilement capable et responsable. Oui, ça peut faire rire, mais légalement, c'est ça. C'est-à-dire essentiellement l'âge auquel il est capable de s'engager dans les liens d'un contrat ou d'un autre acte juridique, seul, sans avoir... l'avis de ses parents. Alors, j'ai accepté droit de vote, mais faut savoir que techniquement, Le droit de vote et la majorité ne sont pas forcément liés. En France, ça l'a toujours été, hein, puisque voilà, ça l'a toujours été. De même, qu'on doit aussi le distinguer de la majorité sexuelle, qui n'est pas forcément identique. Okay. En France,
c'est 15 ans, non ?
C'est 15 ans, avec quelques limitations quand même.
À 15 ans, t'as le droit à la fellation.
À 15 ans, tu peux avoir une relation avec un adulte, mais pas par exemple si c'est ton prof. Ça, c'est interdit puisque un prof est une personne qui détient une autorité sur la personne. Donc, par exemple, c'est interdit, par exemple. Il faut la distinguer de la nubilité, c'est-à-dire l'âge légal où l'on peut se marier. Pendant longtemps, ça n'a pas forcément été le même âge que la majorité. Aujourd'hui, en France, depuis le milieu des années 2000, c'est 18 ans aussi. Ce qui fait que, par exemple, les cas de mineurs émancipés, ça existe. Être émancipé, c'est être mineur, mais être reconnu responsable, donc tu n'as plus besoin de l'autorité de tes parents. Mais en fait, en France, même si tu es émancipé, tu peux pas te marier parce que c'est 18 ans minimum, tu peux pas voter parce que c'est 18 ans minimum. C'est très limitatif, en fait. C'est surtout pour les contrats. Mais ça existe, alors que ça existe. Alors je l'ai dit, hein, la majorité des pays c'est 18 ans, donc avant 74 en France c'était 21 ans, c'était 21 ans depuis la Révolution française, et avant la Révolution française, il faut remonter à l'ordonnance de Blois en 1579, qui l'a fixé à 25 ans de façon générale, parce que bien évidemment avant la Révolution française, c'était un peu chacun faisait comme il veut chez soi.
Oui, voilà, il y avait pas un mec qui disait « Oh, dis donc, t'es en train de coucher avec une jeune fille de 8 ans. Oui, mais je suis un roi. »
Oui, il y a aussi ça, c'est vrai. Fais ce que tu veux. Donc, beaucoup de pays à 18 ans, alors il y a parfois des spécificités. En Autriche, par exemple, c'est à 18 ans, mais le droit de vote est à partir de 16 ans. Au Canada, donc je l'ai dit, hein, au Québec, c'est 18 ans, mais dans certaines provinces, c'est à 19 ans. La Corée du Sud est à 20 ans, est passée à 18 ans au 1er juillet de cette année, depuis 9 jours, depuis 9-10 jours.
Oh, c'est bien ça.
Autre particularité, aux États-Unis, on est majeur à 18 ans dans quasiment tous les États, mais par contre, il faut atteindre 21 ans pour pouvoir acheter de l'alcool et le consommer. Donc t'es majeur, mais pas pour l'alcool. Et dans certains États, par exemple au Mississippi, c'est seulement à 21 ans que tu es majeur.
C'est la contrariété des États-Unis, hein.
Alors qu'ils ont le permis un peu plus tôt, non ?
T'as le permis à 16, t'es majeur à 18, mais tu peux te biturer la gueule qu'à 21. Au Royaume-Uni, il y a une petite spécificité, puisque la majorité est à 18 ans, sauf...
Tu peux te biturer la gueule quand tu veux.
Mais en Écosse, elle est à 16. Ah. Alors après, il y a aussi certaines petites différenciations entre hommes et femmes. Certains pays, par exemple, accordent la majorité aux femmes un peu plus jeunes, à 16 ans au lieu de 18.
Genre l'Iran, par exemple. L'Iran, c'est les hommes 18 ans, les femmes 73.
Alors bizarrement, non, c'est plutôt le contraire, visiblement. Mais globalement, au niveau des pays dans le monde, la majorité est toujours placée entre 16 et 21. Il n'y a aucun pays qui est au-delà de 21. Dans tous les pays du monde, vous êtes majeur à 21 ans. Parfois, tu sais, on parle de passer la majorité à 16 ans, même le droit de vote à 16 ans. Mais c'est très générationnel. En général, tu veux ça quand t'as pas encore 16 ans. Et quand t'es plus vieux, bizarrement, tu dis, mais on va pas filer le droit de vote à ces petits cons quand même.
Tu as quel âge, Quentin ?
Tu aimerais être majeur dans 6 mois ans.
Et on avait eu un débat surtout avec par exemple les gens du lycée, et il n'y avait pas une majorité qui voulait le droit de vote à 16 ans, ils préféraient que ce soit à 18.
Tu vois, c'est quand même quoi. Voilà. Puis il faut vraiment pas leur faire confiance. Déjà ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Tu veux leur faire voter sur la politique, ils n'arrivent déjà pas à comprendre que 16 ans, ça sera quand même bien d'avoir ton mot à dire. Faut rien leur confier à ces jeunes petits cons, là. Hein. Moi, je dis en dessous de 28 ans, faut les abattre. Moi, je dis en dessous de 28 ans et après 29 ans, faut les abattre.
Tiens, au Pakistan, par exemple, c'est 18 ans pour les hommes, 16 ans pour les femmes. Après, j'ai la liste de plein de pays, vous pouvez me demander, je peux vous dire à quel âge on devient majeur. En Lituanie, c'est 18 ans.
C'est dit, il est presque dessus. Bah après, si vous voulez, j'ai la liste, hein, je peux vous le dire.
À Macao.
À Macao. Attends, c'est 18 ans à Macao.
À Kiribati.
Kiribati.
Ah. Les personnes là-bas.
Ça doit être 18 aux îles Kiribati, comme ça doit être du Commonwealth.
Ça veut dire... Je n'ai pas trouvé.
Bon, il n'y a pas tous les pays, d'accord, voilà. Donc voilà, ça c'était pour la question. Et en F1, eh bien en F1, il s'est passé quelques événements ce 7 juillet. Il y a eu d'abord la naissance de Joe Seifert, pilote suisse, qui a eu 2 victoires en Formule 1. Il y a aussi eu la naissance d'Alessandro Nannini, plus proche de chez nous, il est encore vivant, qui a gagné 1 victoire avec Benetton, c'était en 89. Et bah, c'est ça, au Japon.
Oui, quelle victoire, quoi. C'est juste le mec le plus anonyme du monde. Il a gagné le jour où on s'en foutait complètement les vainqueurs. Et ouais, c'est il y a deux situations en Formule 1 où il faut pas que tu gagnes une course parce que tout le monde s'en fout. C'est quand ton sacre champion du monde et quand t'as Prost et Senna qui se mettent en
course. Alors quand c'est les deux en même temps.
Là, tu peux même finir dans les points, tout le monde s'en branle.
Sinon, au niveau des Grands Prix, beaucoup de Grands Prix de France, et notamment ce triste Grand Prix de France 1968, qui avait eu lieu à Rouen, sur le circuit des Essarts. Ouais. Première victoire pour Jackie X, première pole pour Jochen Rindt, et malheureusement, en effet, il a été marqué par le tragique accident de Joe Seifert sur la Honda au magnésium. Quelle merveilleuse idée de faire un châssis au magnésium. Surtout en F1. Non mais c'est vrai, le magnésium, ça a tendance à bien brûler, malheureusement. Tu disais Joe Seifert, non, c'est Joe Schlesser.
Oui, Joe Schlesser, oui. Et la première initiale aussi.
Oui, c'est vrai.
Et je crois qu'à un moment donné, il y a un E dedans, tout le monde va épiloguer. Moi, je dis ça, je dis rien, mais bon.
C'est Guy Ligier qui Joe Schlesser, parce que tous les châssis commençaient par JS pour rendre hommage à son ami.
Le frère, sinon, d'ailleurs, je crois que c'est le frère de Joe Schlesser, c'est le frère de Jean-Louis Schlesser.
C'est pas son oncle.
Le grand frère. Ah, peut-être, ouais.
Il me semble que c'est, que Jean-Louis Schlesser est le neveu de Joe Schlesser.
Je te fais confiance.
Bien sûr. Sinon, il y a le Grand Prix de France 1985 au Castellet. Victoire de Nelson Piquet sur Brabham, et c'est la dernière victoire de l'histoire de Brabham.
Avant le retour.
Oui. Pas savoir. Et sinon, on peut aussi noter le Grand Prix de France 1991, bon, victoire de Nigel Mansell. Voilà, c'est surtout parce que c'est le premier Grand Prix à Manicourt, en fait.
Ça se remémore, oui. Ça. Il faut qu'on s'en rappelle. À ce jour-là, c'était le jour où on est
pour la première Manicourt. Fois. Ah, voilà.
Mon Dieu.
Donc voilà, c'est tout pour l'éphéméride.
C'était un bien bel éphéméride, Shinji. Mm. Je tiens à souligner que tu as vu, j'ai gagné sans aucun indice. Enfin, presque. Pas un indice du genre, oh, c'est plus haut que la Coupe du Monde.
Bah, c'est vrai.
Fallait laisser tourner en rond, je te dis.
Oh, ouais. C'est bon, l'émission était déjà assez longue. J'ai bien fait.
Mais elle aurait pu être plus longue.
Alors, dis-nous, bah, c'est à l'heure de gloire de l'invité.
Oui. Oui.
On sent que c'est bon, préparé.
Mon côté compétiteur fait que j'ai quand même participé
oui
au quiz. Je voulais gagner. Mais du coup, j'ai pas beaucoup avancé dans la suite de l'émission. Bon, j'ai... Ah bah oui, c'est bon, ça y est. Il risque d'y avoir une vieille question, mais bon, c'est pas grave.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors, Quentin, tu le sais sans doute, cette saison, depuis l'année dernière, en fait, en réalité, dans les faits, nous avons décidé de vous consacrer une heure de gloire, une petite demi-heure, voire un quart d'heure, ça sera pas mal, ça dépend de l'invité. C'est toi qui a ça entre les mains, et cette heure de gloire, elle commence par...
Le pour pas pour.
Voilà.
C'est bien.
Il n'y a rien de besoin d'expliquer, en fait. Ouais. on a des auditeurs maintenant, ils connaissent l'émission. Truc de dingue. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route, que le pour pas pour, le concept est simple. Nous avons, je vais te faire 10 propositions, tu me diras pour ou pas pour, et à la fin, tu pourras revenir sur 3 propositions de ton choix et une qui est un petit peu obligée sur laquelle tu dois revenir parce que voilà, c'est comme ça. Je pourrais même dire qu'il y en a peut-être une deuxième sur laquelle il pourrait être intéressant de revenir. Je dis ça, je dis rien. Donc attention, quand tu es prêt, tu me le dis et je me lance.
Je suis prêt.
Alors pour ou pas pour l'introduction du permis à points en Formule 1?
Pas pour.
Pour ou pas pour le départ de Marc Weber en endurance?
Pour.
Pour ou pas pour que Nico Hülkenberg quitte Sauber à la fin de la saison?
Pour.
Pour ou pas pour que Sissy Wolff participe aux essais de Silverstone?
Pour.
Pour ou pas pour que Dom Pérignon sponsorise Williams?
Pour.
Ça c'est la dernière que je viens de trouver. Pour ou pas pour Cyril Abitbol?
Pour.
Pour ou pas pour le partenariat Marussia Reading?
Pour.
Pour ou pas pour aller de l'Allemagne à la Belgique sans passer par la Hongrie, et ça, franchement, ça serait très dommage.
Pas pour.
Ah, pour ou pas pour le Bahreïn qui inaugure la saison 2014 de Formule 1.
Pas pour.
Et enfin, pour ou pas pour la F1 sur Canal+.
Pas pour.
Oh là là, pas pour, c'est rare. C'est vrai en plus. Donc, on va commencer tout de suite par cette question-là. D'abord, est-ce que tu as Canal+, voilà, et puis qu'est-ce que tu penses globalement de la F1 sur de manière payante?
Canal+ pour l'instant, mais c'est ma première année, donc je pense que quand ça va passer à 40 euros, j'aurai plus Canal+. personnellement, je préférais le bio de TF1, mais sur le traitement des grands prix, c'est sûr que Canal+ est devant. C'est sûr que Canal+, une fois qu'on l'a, on en profite pour les films, les séries.
On vous rappelle que samedi dernier, c'était le premier samedi du mois.
Rappelons qu'il faut être majeur justement pour le regarder.
Mais je te tendais une perche.
J'ai dit pour, mais en ensemble, je suis assez satisfait. Mais c'est le duo Villeneuve et Bro qui m'enchante pas plus que ça.
Et pourquoi il t'enchante pas plus que ça?
Il me semble qu'il y avait un invité qui l'avait déjà dit dans le SAV, mais Villeneuve, j'ai l'impression de l'entendre se plaindre à partir du départ jusqu'à l'arrivée. Et Febro, c'est normal, mais il fait quelques erreurs.
Mais Villeneuve, déjà dans l'avion, quand il atterrit, il gueule. Ça tient pas la route, regardez la prof, c'est obligé d'aller dans l'air et tout.
C'est mieux à mon époque.
Ça tient pas le sol, ce truc. Donc, d'ailleurs, on vous rappelle qu'il y a une interview de Jacques Villeneuve qui est à découvrir sur le site fanf1.com.
Par contre, là, j'étais d'accord avec lui.
Mais c'est ça. C'est-à-dire que quand il est interrogé par Ben, c'est bien. Et donc ensuite, tu peux revenir sur trois sujets de ton choix.
Bon, on va revenir sur la Hongrie.
Ah.
Bon, je suis un fan du Hungaroring.
La Hungaroring Nation est en train de se réveiller. Merci, Billy.
T'étais content hier, hein, la semaine dernière, quand t'as entendu Thibault Larue dire pour. Je suis sûr que t'étais content.
D'ailleurs, j'ai dit sur Twitter que voilà, c'était la preuve que c'était quelqu'un qui avait du goût. Moi, je dis les gens qui aiment le Hungaroring sont des gens qui ont du goût. Les gens qui n'aiment pas le Hungaroring ne méritent même pas d'être considérés. Alors, tu vois, Quentin, on va faire l'émission sans Shinji, tu vois. On va le laisser dans son coin.
Attends, c'est comment ça, là?
Shinji veut prendre des vacances, alors. Il aime pas le Hungaroring, ben voilà, qu'il reste dans son coin.
J'ai pas dit que j'aimais pas le Hungaroring.
Oui, mais tu t'es toujours moqué de ce petit circuit sympathique.
Oui, mais j'ai aussi dit
qu'il veut faire l'émission.
Commencez pas à faire ces trucs comme ça, hein, parce que, Dino le sait, si jamais je me barre, c'est vous qui serez dans la merde.
Attends, y a pas de conducteur. Déjà, j'ai pas préparé ma partie, alors c'est fou en plus que je prépare la sienne. Arrête tes conneries, Quentin. Déteste le Hungaroring. C'est pourri, le Hungaroring. Des virages de merde, y a pas une vraie ligne droite, c'est tout le temps poussiéreux, il fait jamais beau. Bah non, mais j'ai pas dit le contraire de ce que je pense, Shinji. Pour t'amadouer.
Oui, mais faut pas exagérer.
C'est vrai.
Tu peux dire des conneries, mais dire que c'est pas beau. Quand même pas.
Une fois tous les 10 ans, il pleut. Donc oui, la Hongrie. Qu'est-ce qui te plaît tant dans ce circuit?
Sur un circuit, c'est normal, mais...
Ouais, puis c'est un circuit lent, il est adapté.
Oui, j'aime beaucoup le vert de l'année dernière. non, mais rien de particulier, mais...
Donc ensuite, tu veux peut-être revenir sur
2G. Les partenariats, Williams et Marussia, là.
Ça sent le truc, donc je m'en fous en fait.
Non, mais ils ont besoin d'argent, besoin de sponsors et tout, alors.
Mais c'est ce qui est rassurant, c'est que dans l'argent, ils trouvent des sponsors. C'est pas le cas de tout le monde en ce moment.
Oui.
Alors bon, faut rappeler que Marussia, c'est avec Reading, donc c'est le club de foot de Reading. Voilà. Ouais, change de Chelsea. Et puis donc, Williams, c'est avec Dom Pérignon. Et là, par contre, c'est un bon partenariat. D'ailleurs, le SAV est preneur. Si Dom Pérignon veut nous sponsoriser... D'ailleurs, toute marque de boissons alcoolisées est la bienvenue.
Voire même toute marque de boissons.
Si tu es un gros consommateur de Monster, donc si vous voulez faire la nique à Red Bull, vous sponsorisez, vous rachetez le SAV de la F1. On va négocier.
Et ça me ferait chier. Surtout l'an prochain, ça risque de me faire chier.
Donc, Quentin, tu veux peut-être revenir sur une dernière actu?
Il y a quoi d'autre comme actu?
Alors, il y a le permis à points, il y a Mark Webber en endurance, Nico Hülkenberg qui pourrait quitter Sauber, Suzy Wolff qui participe aux essais de Silverstone, Cyril Abitbol, et le Bahreïn qui inaugure la saison 2014. Et pour la peine, t'as le droit à deux actus.
On va dire Hülkenberg. Ah. Déjà, il pouvait pas savoir que la voiture de cette année allait être aussi faible. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un pilote qui était à deux doigts de la victoire au Brésil. De voir... mais ça faisait un podium en tout cas pour Forcindia. Je pense que c'était faisable je trouve ça dommage qu'on le voit si dans le classement cette année.
Donc rappelons là que ce week-end quand même on a eu des nouvelles assez peu rassurantes.
J'aime
assez
peu.
qui... Oui, ben c'est bon, voilà, c'est malgré tout, ça reste beaucoup de rumeurs, même si, enfin, il n'y a pas de surprise à savoir que Solaire est dans des difficultés financières.
Ils l'ont même confirmé, hein, qu'ils avaient des vrais soucis financiers.
Ben, c'est-à-dire qu'on parle même du fait que certains, ben, que les employés ne sont plus payés depuis le mois de mai. La dernière fois que c'est arrivé, c'est à HRT. Donc voilà. En sachant que derrière, en plus, effectivement, il y a Nicole Kelmer qui est quand même un pilote que l'on paye, qu'il y a un Gutiérrez qui, certes, a le soutien de Carlos Slim, mais qui est pas non plus, qui a pas non plus le poids ni la qualité d'un Sergio Pérez. Donc, c'est une situation qui est pas facile pour l'équipe en ce moment. Et alors, on a évoqué, il y a plusieurs pistes de rachat. Il y a la piste du propriétaire.
Roman Abramovich.
Voilà, de Chelsea, qui, ça sera la Chelsea. FR Team. Ah, ça aurait de la gueule.
Ouais,
ça aurait de la gueule.
Ils peuvent garder Sauber.
Dirigé par Mourinho.
C'est un joli nom, Sauber, pour une équipe.
Ouais, bon. Je préfère qu'ils renomment Chelsea, le club de foot de Sauber, qui nomme l'équipe de FR Chelsea. Ils renomment la ville de Chelsea. Enfin,
le quartier.
Ils le renomment Sauber.
Ça, ça serait cool.
Il y a aussi le nom d'un autre russe qui lui est spécialisé dans le gaz.
Ah non, c'est la société Gazprom.
Oui, c'est la société Gazprom. Voilà. Et sinon aussi, on a murmuré le nom, mais vraiment murmuré, le nom de Nicolas Todd qui pourrait racheter l'équipe. Ça, c'est Nicolas Todd, il est généralement quand c'est une équipe aux abois, on parle de Nicolas Todd.
Mais
ça allait savoir pourquoi.
C'est vrai que ça a l'air très inquiétant parce qu'on parle même du fait qu'il pourrait ne même pas finir la saison si rien ne se passe.
Grande-Bretagne, Villeneuve disait que tant qu'il était payé, Nicole Kelmer fallait qu'il en profite. Je pense qu'il avait pas encore les infos à mon avis parce que
c'est ça aussi l'enjeu de Hülkenberg aujourd'hui, c'est de malgré tout c'est de finir la saison quand même tant qu'il a pas d'autres baquets,
oui.
C'est de finir la saison et d'essayer de faire les meilleurs résultats possibles et d'essayer de tenir l'équipe parce que rien ne garantit que c'est son intérêt c'est vraiment que l'équipe aille le plus loin possible cette année. Si jamais l'équipe coule d'ici la fin de saison et qu'il se retrouve avec un poste de troisième pilote, rien ne garantit qu'il sera sur les grilles l'année prochaine.
Même si apparemment ce que nous disait en plus Thibaut Larue la semaine dernière, pour l'année prochaine, il a des pistes. Côté Denstone.
Donc si un certain pilote venait à partir, ce dont plus personne ne doute maintenant. Il y a que lui qui fait le mystère. Non, je ne pars pas. Je vais peut-être rester même d'ailleurs. On ne sait jamais.
Un autre pilote qui est payé en retard qui pourrait partir aussi.
Oui, apparemment.
Oui, mais c'est pas le même salaire.
Oui.
Rassurez-vous, Lotus n'est pas en difficulté financière. C'est juste faire le chèque. Attendez, on digère. Parce que on peut vérifier le nombre de zéros là, parce qu'il me semble qu'il y a un zéro de trop.
Peut-être, non, non.
Peut-être même voir deux.
Non, non.
Ou alors c'est le nombre de points. On va peut-être garder Grosjean l'année prochaine, parce qu'en fait, lui il est bien, niveau points. Terme de bonus, c'est nickel. Et donc, t'as le droit à un dernier sujet pour la route.
J'ai pas trop envie de revenir un peu dessus, parce qu'on en a déjà assez parlé. Marc Webber, le départ. Juste le départ, enfin, ça me va.
Enfin, un départ qu'il réussit.
Bon, celui de cette semaine était pas mal.
Oui, c'est bon, en plus.
Oui, c'est le départ de la ligne de départ était bien. Le départ des stands était
un peu moins, oui.
Non, mais, de toute façon, il a fait, même, bon, s'il est resté aussi longtemps, c'est qu'il avait quand même un peu de talent, mais bon, je suis content qu'il aille voir ailleurs.
Alors, toi, tu verrais qui dans le Bakery Red Bull l'année prochaine?
Ouais, je voudrais voir Kimi Raikkonen aussi.
Oh, on va dans la saison 2014.
Ouais. Je suis pas très chaud pour voir les pilotes Toro Rosso chez Red Bull.
Oui, visiblement, Toro Rosso, enfin Red Bull non plus.
Ouais. Oui.
Même Vern, il a dit, bon, l'année prochaine, ils sont prêts à me garder une année, ça peut être
intéressant. Ce qui serait déjà historique. Un pilote resté 3 ans chez Toro Rosso.
Ouais. Le dernier, c'était qui? Mince.
Personne.
Alors ensuite, quelle est l'actu ces dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre?
Kimi Raikkonen qui... le record de Schumacher.
Oh bah ça, oui, effectivement, on n'a rien vu.
C'est pas les mêmes barèmes, c'est pas les mêmes. C'est pas comparable.
Mais surtout, ouais. C'est même déjà, il y a ça, c'est pas les mêmes barèmes. Puis en plus, déjà en soi, le record de Schumacher, c'est, enfin voilà, le record du nombre d'arrivées dans les points. Bon.
Oui. À la limite, le nombre de Grand Prix sans abandon,
oui.
Ça au moins, voilà, il n'y a pas le truc de barème et tout, c'est déjà plus parlant. Et d'ailleurs, non. Il n'est pas encore premier. Mais c'est vrai que les points...
Je crois que pour qu'il soit premier, il va quand même falloir attendre 2014.
Je crois qu'il y a 27 et le premier, c'est 33.
C'est 33
comme quoi, oui.
Radicalfeld.
Oui, c'est... Et encore, on parle en Grand Prix, hein, pas en temps, hein, parce que je vous rappelle quand même que le dernier abandon de Kimi Raikkonen, c'était sur une Ferrari.
Alors, c'est petit ça.
Non,
c'est petit.
Non, c'est pas pour dire que c'était sur une Ferrari, c'était pour dire que ça fait longtemps.
Je peux quand même te dire qu'il y a eu quelques abandons entre sa période Ferrari et sa période Lotus.
Oui. Mais en F1.
D'accord. Si on ne compte que la F1,
oui,
d'accord.
Bien sûr.
Si on compte les vrais sports, bon. Donc ensuite, quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
Lewis Hamilton qui signe chez McLaren.
Ah. T'aimerais le voir revenir chez McLaren.
Ah oui.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que donc toi t'es fan de Lewis Hamilton. D'abord pourquoi? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses globalement de son passage chez McLaren, de son passage chez Mercedes, de son départ chez McLaren et compagnie? D'abord pourquoi es-tu fan de Lewis?
Un peu compliqué, mais j'aime bien son style. Enfin, pas son style, pas vestimentaire, mais...
Allez, trop swag.
Avec sa doudoune chez Mercedes. pas pourquoi.
C'est dur de réussir à dire pourquoi on aime un pilote.
Oui, c'est dur.
Moi, j'aime Vettel parce qu'il est bon. C'est tout. J'aime moins Alonso en ce moment parce qu'il a son petit bouc de la D'Artagnan.
Hein, c'est oui, c'est vrai. Il vient de tweeter une photo avec un rasoir.
Ah, oh, ouais. Ah. Enfin, un éclair de lucidité. Il a compris que c'était sa moustache qui a handicapé la Ferrari. C'est pas aérodynamique, même à travers le casque. Et donc sur son passage chez Mercedes, qu'est-ce que
je pense qu'il était bien content en début d'année parce que je pense que déjà la McLaren au niveau avec la Mercedes marchait bien et je pense qu'il va déjà il le dit hein qu'il commence à avoir marre des pneus mais il faut voir avec le changement de règlement en 2014 oui. les échappements ne souffleront plus sur les pneus.
Il y aura rien derrière les échappements, que dalle. C'est ce qu'ils ont dit.
D'ailleurs, Lewis. Mais derrière ceux de Vettel. Et d'Alonso. Et de Rosberg. Et de Kimi.
Non, mais de toute façon, j'ai connu Lewis chez McLaren. Donc, pour moi, c'était un peu. C'est toujours, mais Lewis, c'est un pilote McLaren. J'arrive pas à le voir ailleurs.
Même pas chez Ferrari.
Non, encore moins.
Ah ouais, c'est parce que tu l'as pas encore vu en rouge.
Alors, juste du rouge sur McLaren.
Oui, bon, si peu. Justement, est-ce que toi, ça t'a fait cet effet-là quand tu as vu la première fois Lewis avec sa nouvelle combinaison? Est-ce que tu t'es dit, oh mon Dieu, la révélation?
Sa combinaison Mercedes?
Ouais, pas sa doudoune, hein.
Oui, non. Sa combinaison. non. Bah, je vois pas quelle révélation j'aurais pu avoir.
Mais tu sais pas, vous savez pas vivre vraiment pour vos pilotes, quoi. Quand un pilote, tu le vois dans un nouveau vêtement, tu ah la révélation. Ouais. Moi, Vettel, quand il change de slip, ah la révélation. Quand il met des chaussettes propres, ah la révélation. Surtout quand les chaussettes sont rouges.
C'est pas éthique.
Ouais. Mais fan d'un triple champion du monde, moi. Ah, pourvu que Kimi et l'année prochaine chez Red Bull, c'est que je te. Je te prouve, quoi, voilà, qui prouve, tout simplement, que, voilà, Vettel est plus fort. Et enfin, au contraire, quelle actualité, toujours en dehors des Grands Prix, n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
On va encore parler de signature, mais que Bianchi reste chez Marussia.
Ah, toi, tu veux qu'il est dans une autre équipe?
Oui.
À laquelle?
On se demande laquelle.
Oh, visiblement pas Sauber.
Lui, je le verrais bien en rouge.
Il est déjà un peu.
Oui, non, mais...
En rouge Vodafone. Parce que faut savoir. Ah non, mais faut savoir que l'Académie des pilotes Ferrari sert à alimenter McLaren. Ferrari forme les pilotes. Et évidemment, c'est McLaren. C'est un peu comme le football français.
Il y aura
les joueurs.
Il y aura plus de rouge Vodafone. Il y aura plus de rouge Vodafone l'an prochain sur la.
Non, il y aura du orange.
Je crois. Ouais.
Je le veux.
Faites-le.
Et donc enfin pour clore ce quart d'heure de gloire, aurais-tu un drive-thru of the weekend of the week of something?
Je vais encore taper sur Canal+.
Cette semaine, ce sera pas moi.
Julien Febro, en fait j'en ai deux, mais Julien Febro parle pendant les radios. Alors du coup on n'entend pas les radios.
Mais ça devait être une radio de Kimi Raikkonen.
Ouais. Et aussi ils ont montré trois fois l'accident, le caméraman qui prenait la roue dans le dos. Ouais, c'était largement tué. Dans le
Alors ça c'est pas Canal, je crois, ça c'est la réalisation internationale.
Non, parce que la réalisation ils l'ont pas montré. Mais
pendant
la
course, je crois qu'ils l'ont remis qu'une fois, pas plus. Oui. Hein.
Ils n'ont même pas remis.
Ils avaient plus de caméraman. Les gars, vite, ils nous font des images. Oui, mais le mec est par terre. Prends la caméra.
Rappelons qu'il est à l'hôpital, mais qu'il va bien.
Oui, bah oui, sinon je dirais pas ça.
Voilà. En Formula 1, je crois qu'ils l'ont montré trois fois.
Oui, là, par contre, oui, c'était pas utile.
il y a eu sur l'accident qu'il y a eu au Canada, il y a même eu sur la Gazzetta, il y a eu une vidéo de reconstitution de l'incident.
Ah oui, voilà.
Voilà, ça c'est juste franchement juste la pas bonne idée quoi. Tu demandes pas des graphistes de la reconstitution de l'accident, le mec laisse tomber son portable, enfin voilà, il a été renversé par une grue, ça nous suffit simplement, il n'y a pas besoin de voir comment il a été renversé, c'est super morbide quoi.
Et va sans doute y avoir c'est plus que sans doute, il va y avoir des modifications. Apparemment, ils sont bien partis pour qu'ils aient tous des casques, les caméramans.
Moi, j'ai entendu qu'à la Hongrie, de toute façon, ils seraient sur le mur et des stands.
Oui, sur le mur et stands. Donc, la réelle des aérostands va légèrement changer, forcément. Sinon, Dino, t'as un drive.
Donc, ce sera un drive contre Mercedes, pour faire original. Parce qu'ils sont très originaux. Mercedes, ils sont arrivés cette année, ils se sont dit, oh, dis donc, on va au Nürburgring, qu'est-ce qu'on pourrait organiser? Ah, dis donc, si on sortait nos vieilles Mercedes et qu'on les mettait sur le circuit du Nürburgring pour faire un tour avec nos pilotes, c'est comme si on n'avait pas fait depuis au moins 2 ans. Ah bah, c'est la dernière fois qu'on est venu sur le Nürburgring. Tiens. Voilà, je pense que c'est bien pour Lewis Hamilton parce que voilà, le Nürburgring avec la Mercedes W196, je crois. Voilà, les Mercedes W50, c'est des voitures mythiques. Voilà. Que tu sois dessus toujours quand t'es Lewis Hamilton, tu viens d'arriver, c'est sympa. Mais ayons une pensée pour Nico Rosberg, qui l'a fait il y a 4 ans, qui l'a fait il y a 2 ans avec Schumacher, qui le refait cette année. Il doit se dire, bon bah c'est bien, mais on peut pas avoir une Ferrari ou une Lotus, ça serait bien. Donc voilà, c'est ça. Et puis il y a un petit drive-thru à l'intention de Ben, parce qu'il a interrogé Niki Lauda et que ça m'énerve.
Voilà, c'est juste
ça fait partie pour moi des 5 mecs que je rêve. Je suis pas groupie mais je me liquéfierais devant lui quoi. J'avais été très surpris lors du calendrier Pirelli de rencontrer Prost et de me retrouver comme une groupie autour de Prost quoi. Je savais pas comment l'aborder compagnie. J'ai pas eu ce problème avec Schumacher par exemple, qui est pourtant un mec que j'idolâtre, mais non, là Prost, qu'est-ce que je fais? Et Niki Lauda, c'est pareil, quoi. Niki Lauda, Stewart, Prost, il y aurait qui d'autre? Bon, déjà, ces 3-là, c'est pas mal.
Oui, ça va. Moi, mon drive-thru, ça va quand même être la voiture Marussia de Bianchi.
La voiture ou ta voiture?
Pourquoi?
Tu mets un drive-thru à la voiture.
À la limite, on peut peut-être la donner à la voiture grue, là. Parce qu'on sait pas trop. Vous allez me confirmer, j'ai l'impression que la voiture ne bougeait pas, et c'est parce que la voiture de sécurité, enfin pas de sécurité, mais pour la récupérer, l'a bougée, et c'est là que elle a commencé à partir en marche arrière.
Alors moi, ma théorie, c'est que la Marussia a vu la grue arriver.
Elle a eu peur.
Et elle s'est dit, doucement, je recule, l'air de rien, elle va peut-être pas me voir. Et elle a reculé, elle a reculé. C'est ma théorie. Ça vaut que c'est la bonne.
Parce que bon, ça a quand même été bien flippant en ce moment-là.
Oh
oui, non. Juste des Red Bull qui arrivent à fond.
Bah justement, c'est bien ça. Ça relance la course. Ça peut même, si on s'arrange bien, ça relance le championnat.
Voilà, il y a déjà eu assez de choses dangereuses ces 2 dernières semaines.
Mais on ne sait pas du tout pourquoi. Enfin,
mais je te dis, quand Bianchi sort de la voiture, elle bouge pas. Donc je me demande si c'est pas le camion là qui apparemment était là pour la pousser. Est-ce qu'il l'a pas un peu mal fait là, la voiture s'est un peu désaxée, s'est retrouvée.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait aucune caméra sur la voiture, puis on a vu aucun replay du moment où elle est partie.
Alors, après, ce qui est étonnant, il a commencé aussi à brûler. Donc peut-être que les circuits électriques ou un truc dans le genre avait trinqué dans l'explosion moteur. Mais ce qui est étonnant, alors c'est pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très pragmatique. C'est y a pas un frein à main sur les Formule 1.
Il faut que les commissaires puissent la déplacer.
Donc, en fait, c'est pour ça, c'est juste Bianchi qui s'est mal arrêté, en fait. Il s'est arrêté en pente, il aurait peut-être pas dû.
La voiture brûlait, la voiture ne bougeait pas.
Oui, peut-être.
Elle ne bougeait pas, la voiture, alors qu'elle aurait dû déjà commencer à partir en arrière.
Donc, on en revient à ma théorie, la voiture a voulu fuir.
Pas impossible, en fait. c'était tout pour l'heure de gloire, Dino.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Une magnifique heure de gloire, Quentin. Bravo.
Et nous allons passer à la course et aux qualifications.
Il y a eu des qualifications.
Oui, il y en a eu.
Oh là là.
Et nos 2 guignols de la semaine pour leur 600e Grand Prix. Bravo les Williams, puisque Bottas 17 et Maldonado 18. Bravo.
Oui, ils ont voulu essayer de tirer avec 100 mètres de retard sur le peloton, mais c'est pas possible.
Alors, à noter quand même Jules Bianchi. Parce que Jules Bianchi, il était quand même malade ce week-end. Oui. Il avait des maux à l'estomac. C'est ce qu'ils ont dit.
Ah, qu'est-ce que ça peut bien
cacher. Il y a que deux possibilités. Soit il a bouffé un truc pourri, soit c'est une gastro. Donc,
dans les deux cas, ça fait.
Voilà. Chier. Mais ça ne l'a pas empêché d'être devant, jusqu'à même son embrasement. Il a toujours été devant Chilton, quand même.
Une seconde, je crois.
Oui, une seconde, encore. Tout à fait. En Q2, on retrouve Jean-Éric Vergne à la 16e place. Adrien Sutil à la 15e. Gutiérrez, c'est presque un bon résultat pour Gutiérrez, 14e en qualif, hein, avec sa Sauber. Perez, 13e. Di Resta, 12. Et quand même, la grosse surprise de la Q2, c'est quand même Rosberg, 11e, quoi.
un peu, comment dire, les Mercedes ont été peut-être un petit peu trop gourmandes ou... Globalement, je trouve les équipes ont joué un peu avec le feu sur cette qualif.
On en a fait tout un plat. J'étais choqué de pas passer en... Enfin, c'était un choc. Pas possible.
Ah bah, c'est une surprise, c'est sûr. Bon, ils ont fait comme Lotus, quoi. Ils se sont merdés, ouais. Et ils l'ont pas fait ressortir,
mais,
quoi.
Ils ont dit que Lewis Hamilton a fait son temps de Q2 bien avant Nico Rosberg. Et il est quand même passé en Q3. Je pense que Rosberg a tout simplement pas été assez bon sur son tour.
Oui, mais ça justifie pas en soi l'exclusion en Q2, quoi. Je pense que effectivement, clairement, de toute façon, globalement, là, sur les deux grands prix, Hamilton a repris l'ascendant sur Rosberg. Maintenant, c'est quand même pas normal que on se retrouve avec Rosberg qui soit 11e, quoi. Et juste par défaut d'avoir pu faire une autre tentative. Ah, voilà, c'est. Mais là aussi, c'est à la fois la faute des équipes, c'est aussi la faute des pneus. Enfin, c'est globalement ces qualifs où on compte les trains de pneus parce que bah il y a qu'un tour de viable sur ces trains de pneus. Donc voilà, moi j'aimerais à un moment donné. C'est qu'on réfléchisse à comment redonner aux qualifs tout l'intérêt qu'elles ont, c'est-à-dire les pilotes les plus rapides sont ceux qui sont devant. Et c'est toujours un peu embêtant de voir un Rosberg dont on sait qu'il est très rapide, qu'il a sans doute aujourd'hui la meilleure monoplace en qualification, qui termine 11e parce qu'ils ont juste pas envie de brûler des pneus, quoi.
Parce qu'il ressort, il passe sans problème. En plus, c'est le moment en Q2 où les températures se sont mises à chauffer d'un coup. Où certaines voitures sont mises à limite s'envoler, hein, les Lotus, les Ferrari, on les attendait pas, pfiouh, waouh.
En Q2. Ou d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'on avait les déclarations après, en fait, les nouveaux pneus sont pas aussi bas. Les gars chez Lotus, surtout chez Lotus, en fait, on a un peu peur, mais bon, on a eu tort. Genre, on aurait pu les changer avant, ça aurait été bien.
En Q3, une presque vieille habitude qui est revenue, Hülkenberg et Button n'ont pas fait tant.
Hülkenberg a quand même une superbe qualif.
Devant les deux Ferrari qui ont pensé, enfin même pas ont pensé, ont choisi une stratégie un peu décalée. On verra qu'elle aura été vachement efficace. Alonso 8, Felipe Massa 7, Richard.
C'est quand même le signe que chez Ferrari, il y a quelque chose qui ne va pas bien en ce moment. Parce que pour renoncer à ce point à la qualif, alors qu'il y a encore 2-3 grands prix, ils disaient qu'il faut améliorer en qualif. Là, ils renoncent à la qualif sur des pneus dont finalement ils ne savent pas encore grand chose. Ils ne savent pas combien ça va tenir en course. Enfin, voilà, résultat, ils font un pari, ils partent mal. Et en course, ça ne paye pas parce que, les pneus n'ont pas fonctionné comme on voulait, quoi.
Et en plus, les deux pilotes, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas le coup classique, on fait une stratégie sur l'un, sur l'autre. Non, les deux. C'est que vraiment, oui, ça ne va pas. 6e place, Ricciardo, encore une bonne qualif, hein, pour la Toro Rosso. Devant les deux pilotes Lotus, Raikkonen 4, Grosjean 5, puis les deux pilotes Red Bull, Weber à la 3e place, Vettel à la 2e, et Hamilton, 1er, qui n'a pas mis autant d'écart que la dernière fois, hein, seulement un 10e. Et voilà, ça, ils l'ont répété plusieurs fois, il égale le nombre de pôles de Fangio. C'est bien gentil, mais c'est pas Fangio qui a le record, donc pourquoi sortir ça? Enfin, voilà, c'est... À la limite, il dirait, oui, c'est le même nombre de pôles que Senna. Oui, là, ok, c'est bon. 29e pôle pour Lewis Hamilton, la 15e pour le constructeur Mercedes, la 97e pour le motoriste Mercedes. Au niveau des pénalités, Charles Pic, qui était 19e, rétrogradé de 5 places pour changement de boîte de vitesse.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Nous allons passer au top 10, et Dino, peux-tu nous rappeler quels pilotes ne font pas partie du top 10 cette semaine? Et tous ont marqué des points.
Je ne peux pas, je suis désolé, je ne peux pas. J'ai tellement été admiratif devant ta manière de faire la semaine dernière, et je suis tellement feignant aujourd'hui, tu vois, que je me dis, à la limite, si tu as le classement sous les yeux, ça m'arrangerait pas ce que tu le fasses.
Parce que je ne l'ai pas, si tu veux, donc...
Ah, bah écoute, dans ce cas-là, je te dis, je veux bien le faire. Si tu me laisses 2 minutes...
Je te laisse 2 minutes, y a pas de souci.
Ne quittez pas. Nous allons donner suite à votre appel. Ne quittez pas. Pour information, Eric Boulier a confié aujourd'hui au journal de l'équipe qu'il était en discussion avec Nico.
Oui, ça a été officialisé. Enfin... Qu'il y avait juste des discussions, mais on sent quand même que, comme d'habitude, ce qui était une rumeur va s'avérer en fait complètement vrai. Je suis triste quand même pour Jean-Éric.
Et après, il y a Lopez qui dit qu'ils sont sûrs qu'ils vont garder Raikkonen.
Oui, non.
T'es triste pour Jean-Éric?
Bah oui, parce que si tout se confirme, bah parce que Kimi chez Red Bull, donc forcément, voilà.
Ah bah oui. Oh.
Tu comprends, tout est en train de s'emboîter. Kimi qui part chez Red Bull, Hülkenberg qui va chez Lotus.
Il reste des places chez Sauber.
Ah oui, ça fait vachement envie en ce moment. Par contre, c'est Petrov qui, peut-être...
Oh non. Mon Dieu, non. Moi, je dis ça, moi, je l'aime bien, Petrov. Et donc, oui, Shinji, je peux le faire. Ah non, pas encore. Non. Enfin, je vais y arriver. Attention, à presque. Allez, voilà. Et donc, en 22e position, nous avons Max Chilton avec 12 points. Mais il faut être fou pour...
Ouais, il a explosé son compteur de points.
En 21e position, nous avons Guido van der Garde avec 18 points. 20e, Valtteri Bottas, 33 points. 19e, Paul Di Resta, 46 points. 18e, Esteban Gutiérrez, 49 points. En 17e position, nous avons l'Allemand, Adrian Sutil, qui courait à domicile, mais qui n'en repartira qu'avec 53 points. En 16e position, Pastor Maldonado par lui avec 57 points. Un tout petit point de moins que Jules Bianchi, dont on peut reconnaître qu'il a fait des étincelles. J'étais en train de chercher une vanne qui n'est pas venue. Pour obtenir 58 points. En 14e position, nous avons Charles Pic, 69 points, un nombre érotique. En 13e position, Ricciardo, 96 points. En 12e, Jean-Éric Vergne, 108 points. Ouais. Et enfin, Mister Eleven, cette semaine, il est brésilien. Il vient de Sao Paulo. Il conduit une voiture rouge d'une marque italienne.
Oui.
Avec comme logo un cheval.
J'ai envie de dire, t'as même pas besoin de dire son nom, hein.
Il s'appelle Felipe Massa, avec 178 points. Et donc, à noter, Shinji, que le vainqueur a marqué 2184 points, c'est ça?
Exactement!
Oh, bravo, Shinji. C'est juste la troisième fois qu'on l'enregistre.
Alors, moi, j'ai donné un point à Jules Bianchi, hein, je l'ai déjà expliqué pourquoi, parce que voilà, il avait bobo à son ventre, ça ne l'a pas empêché d'être plus rapide que Max Chilton. Sinon, Quentin, tu as donné un point à Charles Pic.
Oui, je ne lui avais pas donné de point depuis le début de l'année, et puis il me fallait un 10e pilote. Il a fait un bon week-end dans l'ensemble, alors...
Dino, tu as donné 2 points à Ricciardo.
Ouais, pour sa qualif, essentiellement.
Et, plus étrange, tu as donné 1 point à Max Chilton.
Bah oui, parce qu'il a le mérite d'en être qu'à 1 seconde avec Jules Bianchi qui avait mal au ventre. Moi, je dis franchement, bravo Max. Moi, je dis...
Ça, c'est du compliment. Max, t'es trop fort. Tu n'es qu'à 1 seconde d'un type qui a la chiasse. C'est trop fort.
Ah bah oui, il a un avantage douteux quand même, Bianchi, il est plus léger. Alors voilà, je suis désolé, c'est un avantage. Donc bravo, Max Chilton, bravo. Voilà, tenez. Il faut juste savoir, c'est que j'ai fait un peu mon top 10 en direct, hein, juste avant d'enregistrer.
Ouais, enfin, t'étais pas obligé de...
Mais... En élan de générosité, on
de
va
pitié.
Dire.
Non, de pitié, dis-le.
Ça, c'est toi qui interprètes. Écoute, j'ai dit, on est en négociation avec Monsieur Chilton pour faire sponsoriser le SAV par Reading, alors on va dire que c'est de la générosité, tu vois.
À la 10e place, il a marqué 216 points, c'est Nico Rosberg. Alors nous, on lui a pas donné de points, du tout.
Bah, ouais, pourquoi? Ouais, pour le coup, je sais pas si c'était
bon. C'est-à-dire qu'il s'est même pas rattrapé de sa qualif, quoi.
On peut même pas dire si le course à la Rosberg, on sait même pas s'il a été brillant.
Il a fait une qualif à la Rosberg.
Oh, l'autre, ça y est, bien. Son pilote vient d'égaliser. Il se croit déjà champion du monde. C'est petit, Quentin. Moi, j'y c'est petit.
Dans ce cas-là, passons à la 9e place. Il a marqué 317 points. Je lui ai donné 2 points au classement. Quentin, tu lui as donné 4 points. C'est le pilote McLaren, Sergio Perez. Ça va, les McLaren Pour une voiture qui ne va plus évoluer du tout cette saison, c'est drôle, c'est cette semaine qu'ils font sans doute un de leurs meilleurs Grands Prix de la saison.
Ils profitent que Force India marque pas de points.
Avec
pour quelques, le coup, ouais.
Avec quelques passes d'armes avec Button en plus, qui ont été sympas, comme quoi hein, il peut être agressif et très propre, et là pour le coup c'est vachement bien.
Mais c'est vrai que c'est un peu le peut-être l'impact qu'on a vu du changement des pneus, c'est une McLaren un peu plus revigorée et une des Force India un peu plus discrète. Donc peut-être que les pneus, pour le coup, à ce niveau-là, vont peut-être changer quelque chose.
C'est la troisième équipe qui marque le plus de points ce week-end, à égalité avec Mercedes et Ferrari.
Tire coupé dans les points alors qu'aucun des deux n'était en Q3, pas mal quand même.
Bah, Button est en Q3.
Ah oui, c'est vrai. C'est tellement rare cette année. Et
puis c'est Button.
Il a pas roulé.
Ouais, voilà.
En plus, oui.
Puis c'est Button. Comment je rentre de ma veste d'une saison à l'autre.
À la 8e place, il a marqué 566 points. Peut-être futur chômeur, peut-être futur pilote Lotus, va savoir.
Peut-être futur cheval.
Oui. C'est Nico Hülkenberg qui est 8e.
C'est vrai que avec les problèmes financiers de Sauber et les rumeurs qui entourent Hülkenberg, je pense qu'en ce moment, la plupart des pilotes du paddock doivent quand même se dire « j'ai intérêt à être performant ». Parce que bon, Hülkenberg, c'est pas un manche, il est sur le marché, il va pas forcément coûter trop cher. Donc bon, si jamais il a l'opportunité de partir ailleurs d'ici la fin de saison, je pense qu'il se gênera pas. Donc
Ou en tout cas de verrouiller un baquet pour l'an prochain.
Bah, même d'ici la fin de saison, si jamais on lui propose un baquet où il est payé, je pense même pas que Sauber s'y opposera.
Je sais pas ce qui peut se passer, mais je pense pas qu'un pilote va perdre son baquet en cours de saison, ce que je veux dire.
Ah, qui sait?
Mais par contre, il pourrait verrouiller un contrat pour 2014, ce qui le rassurerait, voilà, même s'il ne devait pas finir la saison, c'est ce que je veux dire.
Et tu l'enverrais où en 2014?
Bah, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, donc Oui, Hülkenberg Grosjean en 2014, ça peut être intéressant.
Ah, ça, sincèrement, ça sera un super duel à observer. Ce qu'aurait peut-être dû faire d'ailleurs Lotus dès le départ, ouais. C'est-à-dire aligner deux jeunes pilotes, mais deux prometteurs. Là, j'ai un peu l'impression que depuis quelques années, ils sont sur des stratégies. Soit d'un côté, ils ont aligné des pilotes, Petrov, Heidfeld, Senna, qui n'étaient pas hyper talentueux, mais qui ramenaient l'argent, et voilà, c'est ce dont avait besoin l'équipe. Et je pense que Raikkonen, ce que fait Raikkonen chez Lotus, c'est très très bien. Mais il faut quand même reconnaître que Raikkonen est un pilote qui est peut-être d'un gabarit un petit peu trop important pour Lotus, notamment financièrement, que là, il commence à avoir des rumeurs comme quoi, même Lotus a reconnu que les salaires de Raikkonen étaient versés avec un tout petit peu de retard. Voilà, c'est la bonne donne pour Lotus, pour confirmer que c'est l'équipe, entre guillemets, une équipe qui monte, ça serait de prendre deux jeunes talents et de les faire progresser, quoi.
Ça pourrait être de bons profils, ouais, comme duo de pilote. Hülkenberg qui a quand même pointé à la 4e place à un moment.
Mais enfin, il fait un grand prix. Alors, je sais pas si c'est la Sauber qui était meilleure ou si c'est lui qui s'est dit merde. Bon,
c'est peut-être aussi là encore ces histoires de pneus. Hein.
Il faut que je négocie. Là, ça peut être peut-être
ce que tu disais pour McLaren. Enfin, techniquement, cette semaine, on peut le dire pour tout le monde. Hein,
mais c'est ça. Et en plus, on pourra pas vérifier en Hongrie parce qu'en Hongrie, il y aura encore des nouveaux pneus. Voilà. D'ailleurs, tout le monde évidemment les pneus de Hongrie. Mais voilà, c'est vraiment c'est une course qui est très difficile à analyser, notamment du point de vue des pneus, parce que c'est des pneus qu'on n'a jamais vu en conditions de course
et qu'on ne reverra plus.
Qu'on ne reverra plus parce que voilà, ça va encore changer en Hongrie. Donc.
Passe à la 7e place, il a marqué 753 points, c'est Marc Weber. Alors, moi et Quentin, on l'a mis 4e, Dino, tu l'as mis 8e. Enfin, ouais. Moi, je sais que c'est notamment particulièrement la remontée qu'il a faite. Alors, bien sûr, il y a une safety car, on est d'accord, ça arrange les choses, forcément. Mais quand même, voilà, il était quand même 21e, il finit 8e. 7, oui. Et il avait un très bon rythme, en plus, même avant ses problèmes.
Ce qui est terrible pour lui, c'est qu'il prend un super départ, peut-être même meilleur d'ailleurs même que Vettel. Il a rien à se reprocher, c'est juste qu'il se retrouve à l'entour parce que
à cause de l'incident
de l'incident dans les stands. Voilà, encore une fois, on en revient sur ces aérostands qui sont pour moi, je trouve, beaucoup trop rapides et beaucoup trop dans la recherche de la performance, ce qui fait qu'il y a ce type d'incident derrière. On peut accuser pas grand monde. Red Bull disent qu'ils vont changer des trucs, je vois pas ce qu'ils vont changer. Malheureusement, je crains que on a déjà vu pas mal cette année, on en reverra. Voilà, je pense que c'est pas un problème de méthode, c'est un problème tout simplement de performance. Voilà, il perd un tour sur ça.
c'est entre guillemets que Justice qui retrouve son tour et qui puisse finir septième. Voilà, c'est vrai qu'il fait une très belle course, aidé par la safety car, mais là pour le coup, voilà, c'est limite, on est content qu'il soit aidé par la safety car parce que,
oui,
connaissant le pilote, connaissant en plus sa grinta sur ce type de circuit, parce qu'il a un coup de volant sur ce type de circuit. Bon bah voilà, ça aurait été vraiment dommage de se passer d'un pilote comme lui, même si c'est vrai que même s'il fait une bonne remontée, je trouve que sa remontée est passée un peu inaperçue, notamment parce que les enjeux en tête de course étaient très importants.
Oui, mais là c'est pas de sa faute si voilà. S'il était derrière, il s'est passé des trucs géniaux devant, ça.
Oui, mais il aurait pu être devant.
Mais j'ai l'impression qu'il veut faire que des remontées parce que, à mon avis, il a fait exprès de prendre un mauvais départ à Silverstone pour montrer qu'il est capable.
Oui. Il y a d'autres manières.
C'est vrai que parfois on a l'impression qu'il se force quand même, hein, pour faire ses départs. Hein. Faire autant de mauvais départs comme ça.
Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je vous explique. Sa maman, elle lui envoie un SMS à chaque fois au moment du départ pour lui dire bon courage, mon chéri. Et lui, à chaque fois au moment du départ, il regarde le SMS. Donc du coup, bah voilà, il passe à côté.
Bien sûr, oui.
C'est sa petite maman.
Ouais.
Tout le monde dit si Red Bull c'est son Kers. Non, c'est sa petite maman.
Qu'est-ce qu'il faut avec un portable au moment du
départ? Ça se trouve, il y a un système qui est. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, c'est ma théorie.
Ouais. Les voitures qui ont peur, les mamans qui appellent. Ça va? Il y a du quoi dans ton sandwich?
Du thon et de la mayo. Ouais. Non, c'est parce que je suis fatigué. Quand je suis fatigué, c'est comme si j'avais picolé.
Ouais. J'aurais pas dit picoler, mais oui si tu veux.
Ah ouais, il y avait un truc vert dedans.
C'était des herbes de Provence.
Roulé dans une espèce de feuille blanche.
C'était des sandwichs, comme dans la Humir sur Mother.
Ah, culture quand tu nous tiens.
À la sixième place, il a marqué 831 points. Et attention, parce que là, il y a un petit écart cette semaine. Donc, à la sixième place, 831 points, c'est l'autre pilote McLaren, Jenson Button.
C'était comme Villeneuve, tu commences à passer du côté de McLaren.
Dino, tu lui as donné 6 points. Quentin et moi, on lui a donné 10 points.
Ah, j'étais là-bas, ouais.
Non, mais il a fait un bon week-end, il passe en Q3, il fait un beau Grand Prix.
Et globalement, voilà, on l'a dit, on peut dire un bon week-end de McLaren. Ça aurait pu être...
Oui.
On aurait aimé mieux, mais...
C'est quand même dingue qu'on en vienne à dire que c'est un bon week-end de McLaren.
Bah, cette année, oui, c'est un bon week-end McLaren.
Ah bah, c'est de loin leur meilleur week-end. Écoutez le fan d'Hamilton. C'est parce que pas Hamilton. N'importe quoi. Avec Hamilton, ça fait longtemps qu'on ne parlait plus de McLaren. On n'existerait plus.
C'est sûr qu'avec Perez,
parce que voilà un vrai pilote de talent. Il sait faire des dépassements, lui. Et gérer ses pneus, lui.
Ah bah, j'aime beaucoup Perez.
Ah, voilà. Alors, ça y est, il commence à basculer. Voilà. Ouais, non, mais attention, j'aime beaucoup Perez. Dans un an, on va le recevoir. Ce sera le seul fan de Perez qu'on connaît. Dans 2 ans, il est fan de Timo Glock.
Non. Ouais, il a quand même fait gagner les Wings en 2008.
D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Timo Glock.
C'est vrai.
Ça se trouve, les fans de Massa ont réussi à l'avoir. Lors d'un meeting de TM.
Hé, hey, Timo, tu nous donnes une autographe.
On va avoir une théorie.
Oui, bien sûr. Allez les gars, dans le camion.
Souviens-toi, 2008.
Le pauvre. J'ai des visions de Timo Glock dans une cave.
Tu vas parler à vous. C'est un complot.
Non, mais c'est presque triste parce que voilà, McLaren fait son meilleur week-end et si ça se trouve, ils seront jamais aussi bien parce que ils l'ont dit, hein, là maintenant c'est 2014 pour eux.
Ouais. Oh, quelle surprise. J'attendais pas.
Après, Button, c'est vrai qu'il fait une bonne course. Pour le coup, ouais, j'ai envie de dire quasiment une course à la Rosberg, quoi. Une course efficace.
Cinquième place. Il a marqué 835 points. Ça s'est joué à 4 petits points. C'est l'ex-pilote McLaren, Lewis Hamilton, le poleman. J'ai donné 6 points. Dino et Quentin, vous lui avez donné 8 points. Alors, la semaine dernière, on se disait tous, ouais, c'est bon, il y a eu les kilomètres d'essai. Voilà que Mercedes, c'est bon, ils tiennent leurs pneus. Hein, ils vont tout gagner. Hein, ils vont jouer le titre. Et puis, la température a monté de quelques degrés.
Et si c'était pas un truc de la part de Mercedes pour vous dire, vous voyez, on n'a pas tiré avantage, vous pouvez nous laisser participer aux essais jeunes pilotes avec des pilotes titulaires.
Ouais.
Et la voiture saisonnée. Et essayer des pièces comme on veut et des réglages comme on veut et faire tout ce qu'on veut, en fait. Et là, après, ils arrivent en Hongrie, ils disent, ah, on vous a bien niqué, là, 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 nous, on avait tiré avantage et tout. Ils veulent attirer la pitié, tu vois. C'est...
Bien sûr.
Là, tu vois, maintenant, j'imagine reprendre, s'il vous plaît, monsieur SF, Formula. Non, mais voilà, Lewis, c'est à la fois en partie les pneus, mais c'est aussi, entre guillemets, en partie lui, parce qu'il se foire monumentalement, enfin, lui.
Ah oui, c'est vrai que le départ...
Thibault Larue l'a bien dit la semaine dernière, c'est en même temps, c'est le pilote, mais on peut difficilement, aujourd'hui, imputer une erreur de départ exclusivement au pilote, même si le pilote joue un rôle dans la préparation du départ, mais voilà... Pour un pilote de son expérience, qui a aujourd'hui une trentaine de pôles, se gaufrer comme ça au départ, c'est quand même assez exceptionnel.
C'est rare de sa part, hein. Faut bien le dire.
Moi, je pense sincèrement que s'il part devant, c'est déjà une course qui est peut-être un peu plus intéressante pour lui.
Oui.
Parce que là, malheureusement, il part derrière et puis, il se retrouve à batailler face au Red Bull. Donc, du coup, à user ses pneus, c'est par des fortes températures. Je pense pas qu'il aurait pu gagner. Mais
non,
il aura
non,
pu
t'as
faire
raison,
mieux
parce
que
il part premier. S'il part premier, il ralentit les Red Bull, donc il y a moins d'écart avec les Lotus.
Surtout moins d'écart avec Alonso qui revient très fort derrière.
Donc ça aurait été intéressant. En effet. Chose à rajouter sur la course d'Hamilton?
Quentin, vas-y, toi.
Il a bien bloqué Raikkonen pour la victoire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, oui.
Pas un fan de Raikkonen et je préfère Vettel. Alors moi, ça me va.
C'est vrai que, sincèrement, ça a été une bataille magnifique. Enfin,
ah non.
Qu'adore les belles défenses. Là, Hamilton, il m'a fait super plaisir.
Ça, c'est Rosberg qui a bloqué Hamilton,
oui.
Qui a bloqué Raikkonen.
Alors c'était un beau passage, ça. Je suis plus rapide. Dites-lui de me laisser passer. T'es sûr? Tu veux vraiment qu'on utilise la radio?
On va passer à la quatrième place avec 1200 points. Il y a un gap. Hein. Là, il y avait vraiment quatre pilotes et les autres. C'est Fernando Alonso. Je lui ai donné 8 points. Dino, tu lui as donné 12 points. Quentin, tu lui as donné 2 points.
À ton honneur, Quentin. Vas-y.
Oui, bah...
Je te retrouverai.
Bon, déjà, c'est pas que Alonso, c'est Ferrari aussi, parce que déjà leur stratégie de faire la qualif comme ça, hein, il prend pas un super départ par rapport à Massa. Et puis, je crois qu'il a fait un Grand Prix exceptionnel. Après, je pense que la safety car, ça l'a un peu remis sur les stratégies des autres. Ça lui a permis de revenir sur Grosjean dans la dernière partie.
C'est ça qui est dommage. Quand on voit la safety car, on va s'empêcher de se dire quand même qu'il y avait quelque chose peut-être à faire pour lui en partant sur une stratégie un peu comme les autres. Donc, c'est-à-dire
mais cette stratégie, oh là là. Oui, on part en pneu médium. Ah, on ravitaille. Ah ouais, mais les autres, ils ravitaillent en même temps et ils ont des pneus tendres. Ouais. Mais c'est... Y a pas un souci.
Mais après, c'est, sur la stratégie en elle-même, j'ai pas trop envie de blâmer Ferrari, ni Alonso, ni Massa. Parce que bon, à la limite, c'est une stratégie. On peut pas leur reprocher de tenter un truc, mais c'est comme tout pari. Si ça passe, ça c'est génial. Si ça passe pas, c'est pourri. Bon là, c'est pas passé, c'est pourri. Tout le monde se fout.
Non, c'est plus que pourri,
mais
c'est flippant.
C'est pour le coup, c'est juste de se dire, mais pourquoi vous prenez un pari? C'est normalement ils devraient pas en prendre des paris. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dire qu'en ce moment ils sont clairement pas en confiance. Ils voient qu'ils sont plutôt sur le déclin cette saison que sur une pente ascendante en train de réduire l'écart. Donc ils se mettent un petit peu comme le Canada l'an dernier, ils se mettent à faire un peu n'importe quoi, un peu paniqué, se dire il faut qu'on arrive à trouver un truc pour faire mieux. Ah oui, mais commencez déjà par faire votre course. Ils ont un pilote qui est Alonso, qui sait très bien tirer la quintessence de sa voiture et tirer la quintessence des circonstances. Et moi, je reste convaincu que sur une stratégie normale, Alonso se qualifiait mieux et pouvait peut-être davantage aussi finir sur le podium, voire peut-être plus. Voilà, moi, cette stratégie. Je commence même à me demander si le fait de choisir cette stratégie n'explique pas pourquoi Alonso finit derrière Massa en qualif. Parce que je pense que même Alonso, ça fait plusieurs fois qu'il dit que bon, il est habitué maintenant à plus qualifier en pôle, que voilà, qu'il est habitué à partir 5-6e, et que je pense que même si psychologiquement, il dit on part en pneu médium, allez, je fais un tour et puis après je rentre, on verra demain. Je pense qu'aujourd'hui Alonso, il est limite dans cet état d'esprit là, quoi. C'est parce que généralement c'est dans ces conditions là que Massa est meilleur que lui en qualif.
Mais pourquoi avoir fait un tour aussi?
En fait, c'est terrible, mais je pense que Ferrari, il faudrait qu'il redonne le pouvoir à Alonso. Je pense que l'an dernier, Alonso a porté cette équipe à bout de bras. Cette année, il s'appuie un peu plus sur Ferrari. Et je pense que là, il sent une mauvaise période.
Il peut pas faire tout seul, hein.
Oui, mais justement, c'est à ce moment-là où j'ai envie de dire qu'Alonso devrait reprendre le dessus. Et c'est peut-être là où, effectivement, qu'on voit Alonso un peu fatigué. C'est que, pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit surtout Ferrari. On voit surtout Ferrari s'effondrer. L'an dernier, Ferrari, on les voyait pas s'effondrer. On voyait Alonso qui tenait l'écurie à bras le corps. Mais là, on voit Ferrari qui a du mal et Alonso qui existe. Simplement dans la Ferrari, il n'est pas aussi tonitruant que l'an dernier. Alors est-ce qu'il y a, pour le coup, il y a peut-être un petit peu de lassitude, un petit peu de fatigue, surtout d'être tout le temps dans cette situation-là.
C'est quand même fou quand on pense qu'ils sont partis en début de saison avec une voiture qui intrinsèquement
était peut-être la meilleure,
était peut-être même la meilleure, ou en tout cas bien meilleure que celle de l'an dernier, quoi.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4-5 mois? Parce que ça fait déjà 4-5 mois que la saison a commencé.
Alors déjà, à Silverstone, ils ont dit que quasiment toutes les pièces qu'ils avaient apportées n'avaient pas fonctionné.
C'est apparemment, c'est vraiment depuis plusieurs mois, on peut le dire, le développement chez Ferrari, mais c'est une catastrophe.
En plus, c'est étonnant parce que, c'est en lien avec Sauber, il se murmure que, du coup, Sauber ne paierait plus une partie des factures, notamment la facture moteur de Ferrari, et qu'ils auraient donc trouvé un accord avec Ferrari pour ne pas payer les moteurs, mais donner libre accès à la soufflerie de Inwheel pour que Ferrari puisse y développer certaines pièces. Et la soufflerie d'Inwheel est réputée comme étant l'une des meilleures actuellement sur le marché. Donc c'est à se demander si effectivement qu'est-ce qu'ils font, parce que théoriquement ils sont à Cologne, ils sont à Inwheel, à un moment donné il devrait y avoir des pièces qui sortent, ça devrait être facilement vérifié, quoi. Là pour le coup, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'excuse, c'est juste manque de créativité, manque peut-être d'ingénieurs, manque de en termes de développement pour le moment. Puis on voit pas grand chose, même sur les voitures on voit pas grand chose.
Est-ce qu'on peut commencer à se poser la question de la présence de Fernando Alonso chez Ferrari? Parce que ça commence quand même à faire beaucoup, 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 beaucoup. Pour un pilote qui venait chez Ferrari quand même pour gagner des titres.
2015 plus une option en 2016.
On attend de voir les trois années qui suivent. Je pense que de toute façon, il faut attendre de voir ce qui va se passer dans les années à suivre. Mais si ça continue comme ça, peut-être qu'il en aura marre et il va signer ailleurs.
Mais c'est ce qui m'étonne le plus, c'est vraiment ce qui m'étonne le plus, parce que moi c'est la crainte que j'avais quand Alonso est arrivé, connaissant un peu le bonhomme, j'avais la crainte que le jour où ça marche pas, le contrat vole en éclats, qu'il se barre et que ça soit perte et fracas. Et c'est ce qui est étonnant, c'est que ça se passe bien, pourtant, un pilote de son calibre, tout ce qu'il fait depuis 4 ans et que pour le moment il est pas super bien récompensé, pas par l'équipe, parce que je pense que sincèrement l'équipe le récompense largement à sa juste valeur, mais je pense que récompenser en résultat, ce qui prime avant tout pour ce type de pilote, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de se dire, il va peut-être retourner chez McLaren, il va peut-être envisager d'aller ailleurs, pourquoi pas retourner chez Lotus, pourquoi pas approcher peut-être Mercedes. Il y a même pas des rumeurs. C'est ça que généralement il peut y avoir des rumeurs. Là, il y a même pas de rumeurs. Car tout le monde semble convaincu qu'Alonso va rester chez Ferrari, qu'il n'y a pas d'autre solution, et semble plus ou moins fataliste entre guillemets sur le fait qu'Alonso va finir sa carrière chez Ferrari. C'est méchant ce que je dis pour Ferrari, parce que fataliste, c'est pas forcément le bon mot, mais on peut l'être, parce qu'on commence déjà à avoir des discours sur l'année prochaine qui sont le gros souci, ça sera la fiabilité et compagnie. Oh non, mais les gars, vous faites peur là. C'est difficile à savoir. Peut-être que Ferrari s'est dit, à la limite, misons tout sur 2014. Peut-être que c'est ce qui couvre en ce moment chez Ferrari.
Oui.
Ils se sont dit, on a une bonne voiture, elle marche
parce
bien.
Parce qu'on sait qu'ils ne le diront pas. Donc.
Mais qu'ils ont peut-être vite vu que avec les pneus et compagnie, politiquement, ça allait plutôt tourner en faveur de Vettel. Et que il n'y avait peut-être pas d'intérêt aujourd'hui à se battre cette année. Mais que, par contre, il fallait mettre leurs œufs de plus en plus sur l'année prochaine. C'est pas une envie. Après, effectivement, ils en parleraient pas, mais parce que ils peuvent pas, c'est tout pas possible. Mais c'est vrai que moi, je sens une sorte de léthargie générale chez Ferrari.
J'ai l'impression que depuis 2-3 Grands Prix que cette équipe elle est un peu en roue libre, qu'il n'y a plus vraiment de patron. Voilà, c'est-à-dire chez Ferrari, généralement, soit t'as Alonso qui tire l'équipe, soit t'as l'équipe qui tire Alonso, comme c'était le cas en début de saison. Par moment, on avait quand même l'impression que l'équipe portait un peu Alonso. Là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de voir une Scuderia Ferrari qui fait vraiment le strict minimum, quoi. Et même la course Alonso, elle est pas mal, mais elle est pas grand chose à dire, quoi.
Il faudra voir sur les prochains Grands Prix, il faudra voir sur la Hongrie, ça peut être intéressant. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand même deux circuits où ils ont été plutôt bons ces dernières années, avec des voitures qui étaient pas bonnes normalement à l'origine. Là, et ben, là, à la fois le Silverstone et le Nürburgring, ils sont un peu passés au travers. Donc voilà, comment ça va se finir, c'est peut-être super bon pour la fin de saison. Ça se trouve, ils ont une super voiture pour la fin de saison, ça va finir nickel. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Les années précédentes, ils étaient bons à Monaco, ils ont été inexistants à Monaco. Ils étaient super bons à Silverstone, ils le sont pas cette année. C'est vraiment, pour le moment, cette saison est vraiment l'opposé de l'année dernière. L'année dernière, personne n'y croyait au début. Et peu à peu, c'est
et ça
bon, jusqu'à la fin de saison, on est estomaqué. Et là, cette année, tout le monde y croyait au début, puis peu à peu, je crois que on est de moins en moins à y croire, quoi. Même moi, pourtant, qui suis fan de cette équipe et de ce pilote, je me demande aujourd'hui comment ils vont pouvoir rivaliser avec, d'un côté, Vettel, qui pour moi, aujourd'hui, peu à peu, est en train de mettre le championnat à sa botte, et pouvoir rivaliser avec des Mercedes qui, mine de rien, commencent à revenir un petit peu, avec des Lotus, ouais, je commence même à m'inquiéter de voir McLaren revenir derrière, quoi. C'est dire.
Ah, on a du breaking news, puisque la FIA a finalisé ses plans pour les essais. Il n'y aura pas de quatrième journée.
Et Hamilton qui est au scandale.
S'il y a que trois jours, c'est quasiment improbable qu'il y ait Mercedes. Et les pilotes titulaires ne pourront pas travailler sur les réglages afin d'améliorer leur voiture. Seuls les changements liés au travail des pneumatiques seront autorisés et il y aura un observateur de la FIA dans chaque stand. LOL!
Ah, l'observateur de la FIA, genre, ça existe.
MDR!
XPTDR! Ouais, ça va être belle usine à gaz, la semaine prochaine. Moi, j'aimerais y être. Je ne le cache pas, j'aimerais y être. Donc, du coup, on sait qu'Alonso n'y participera pas. Vu qu'Alonso, lui, a dit que ça ne l'intéressait pas, s'il peut pas essayer des trucs sur la voiture, il est pas là pour rouler avec les pneus. Donc du coup, je pense que...
Non. Non, c'est encore plus drôle, ils disent « Non mais vous vous rendez pas compte, c'est super dangereux, on a failli se tuer, vous voulez en plus nous faire tester des pneus ?» En même temps, oui, c'est justement pour éviter qu'il y ait des soucis.
Button non plus, il veut pas, non.
Je crois qu'il en a rien à secouer, quoi. Déjà, l'an dernier, ça le dérangeait pas de pas participer aux essais du Mugello. Là, je pense cette année, raison de plus cette année. Non, la McLaren? Non. Écoutez, moi, j'ai prévu un marathon. Bon, je vais pas vous cacher. En ce moment, je prends plus de plaisir au marathon que dans la McLaren.
Ah, n'oublie pas, hein, il l'a dit, hein, je suis plus après quel Grand Prix, que c'était la plus mauvaise voiture qu'il avait, sur laquelle il avait roulé, hein. Il a quand même roulé dans des Honda, quoi. Ça me donne le niveau quand même de la McLaren.
Oh, je suis sûr qu'il a changé d'avis ce week-end. Oui, c'est ça un petit peu tout peu ça la semaine dernière, Lewis Hamilton, c'était « Ah, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue !» Et là, c'est limite, c'est une voiture, c'est une catastrophe. Bah attends, Lewis, c'est la même, hein. Rassure-nous, vous n'avez pas changé de voiture en cours de route.
Et donc, le podium, à la troisième place, il a marqué 1822 points. Je l'ai mis deuxième. J'aurais pu le mettre troisième, j'ai beaucoup hésité. Mais je l'ai mis deuxième, comme Quentin. Dino, tu l'as mis troisième. C'est un pilote Red Bull. Mais peut-être l'an prochain, en fait. C'est peut-être l'an prochain qu'il sera chez Red Bull. C'est Kimi Raikkonen.
Ouais, c'est plus ou moins à sa place. Enfin, moi, troisième, je trouve, plus ou moins à sa place.
Moi, j'ai beaucoup, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont déchirés sur FNF1. Moi, franchement, je les aurais mis tous les deux deuxième, quoi. Parce que le week-end, cette course des Lotus, mais waouh, quoi.
Bah, moi, je l'ai laissé juste derrière Grosjean, parce que voilà, Grosjean lui laisse la place.
Ah, ça n'a pas été si facile que ça, quand même.
En plus, c'est ça. Je pense que si Grosjean n'avait pas voulu, je pense qu'il aurait très bien pu finir deuxième. Maintenant, d'ailleurs, il a été un petit peu long à se laisser dépasser. Mais voilà. Moi, je pense que Kimi Raikkonen, une bonne troisième place, c'était déjà très bien. Puis surtout, voilà, il y a quand même la safety car qui lui permet de revenir. Sinon, sans la safety car, il y a même pas question. Ou alors là, pour le coup, faut vraiment que Grosjean ralentisse.
Ah oui.
Mais voilà.
Bah, je crois que ça, on est tout le monde est d'accord. La safety car pour Grosjean, il va la maudire longtemps.
Ah bah sincèrement, il y a pas de safety car, Grosjean gagne la course.
Il aurait pris les points quand même à Vettel pour.
Et puis même dans l'hypothèse où il est où Raikkonen était deuxième, je suis pas sûr que pour la victoire Lotus autant ça peut être un truc que Ferrari sait faire ça, autant pour la victoire avec un pilote dont on sait le manque de confiance, je suis pas sûr que Lotus aurait demandé à Grosjean de laisser passer Raikkonen pour la victoire.
Je pense que ça dépend aussi de l'écart qu'il y avait, qu'il y aurait eu.
Ah, on a connu un Grand Prix où un pilote avait 10 secondes d'avance et en 3 tours, il avait un quart de seconde de retard. Ah, Österreich.
Et ça, Raikkonen qui a un peu refait le coup de Weber la semaine d'avant, remonté comme une furie à la fin, mais non, il manque 2 tours.
Et en fait, c'est ça, faut le remettre une safety car, un peu au hasard, pour un peu troubler les stratégies. Faut arrêter avec les pneus, faut juste mettre une safety car. Voilà,
au hasard, comme ça.
Bernie éternu, hop, safety car. Ça se trouve, il s'est pété la colonne vertébrale, attention les gars. Faut ramasser les débris. Ou le débris, à vous de voir.
Non, voilà, superbe course des Lotus. Et de Raikkonen, voilà. Mais c'est vrai que c'était difficile de choisir 2 ou 3 pour Raikkonen. Et donc, à la deuxième place, on a déjà commencé à en parler, c'est Romain Grosjean. Donc, vous avez choisi Romain Grosjean à la deuxième place avec 2124 points. Dino, tu l'as mis deuxième, Quentin et moi, on l'a mis troisième. Voilà. Comme quoi, vraiment, c'était vraiment l'un ou l'autre.
Moi, je me suis posé la question parce que j'avais le premier. Parce que j'ai tellement voulu sa victoire. Je l'aurais trouvé tellement belle. Et il la mérite, mais amplement sur ce Grand Prix. Et
il a jamais été aussi proche de la victoire, hein, ça c'est clair. Hein. Son rythme de course avant la safety car, c'est juste magique.
Après, je le laisse deuxième. Parce que j'estime qu'avec la voiture qu'il a, et avec le talent qu'il a, ce type de course devrait être quasiment toutes les semaines. Il devrait être à cette position-là. Voilà. Il en a pas toujours tiré avantage, mais là, la voiture se comportait bien. Elle a été dans des conditions optimales, un peu comme à Bahreïn. Mais il n'y a pas d'erreur. Il y a une maturité. Il y a une assurance dans le pilotage. Face à Vettel, enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé face à Vettel, il avait strictement pas à rougir. Même s'il faut rajouter que Vettel a eu un problème de KRS et que donc, c'était pas vraiment à armes égales. Mais voilà, j'aimerais qu'il soit en mesure de nous faire ses courses. Il faut vraiment qu'il arrive à trouver. On avait déjà dit au Bahreïn que ça serait peut-être la course des clics. On va peut-être redire là aussi que ça sera peut-être la course des clics. Mais
je pense que ça allait encore. Je l'espère vraiment
parce que il est capable. Plusieurs fois, il nous a sorti ce type de course. C'est d'ailleurs généralement le même format. Il est devant Raikkonen. Il faut qu'il laisse passer Raikkonen. Et c'est ça qui est cruel, quoi. J'aimerais qu'il fasse ça quasiment tous les week-ends, quoi. Qu'il soit tous les week-ends dans la position, parce qu'il est capable de le faire dans la position de se battre avec les meilleurs et de devoir céder sa place. Ce que malheureusement, cette année en tout cas, il a du mal à faire. Mais là,
pour coup, c'est un vrai déclic parce que c'est vraiment la course où il peut se dire, peut-être pas j'aurais dû, mais j'aurais pu gagner. Là, vraiment, plus que toute autre course, franchement, auquel on a vu Grosjean.
Mais ce qui me dérange un peu chez lui, c'est que on a l'impression qu'il attend que ça aille mieux et qu'il fait rien pour réagir quand ça va pas. On a l'impression qu'il attend. Le déclic,
oui.
Mais je pense que lui,
ça va pas, et il arrive à rien faire.
Je pense que c'est aussi, c'est là aussi où nous on est très dur, et c'est là aussi, ce qu'on dit toujours sur Grosjean, c'est toujours ce qui fait polémique sur Grosjean, mais il faut quand même rappeler, Grosjean, il en est aujourd'hui à son cinquième podium avec une petite trentaine de départs à son actif. Ils sont pas nombreux non plus les pilotes qui ont ce palmarès là avec cette expérience là. Donc c'est vrai qu'on a des attentes énormes envers lui, que ce soit nous, mais pas seulement nous. Imaginez que c'est que français. Je pense que tout le monde le regarde attentivement parce qu'il est comparé à Raikkonen.
Et c'est ses premiers. Je regarde. C'est ses premiers points depuis Bahreïn. Non, il n'avait pas marqué.
Et c'est vraiment Bahreïn, ça qui est dommage, quoi. Je pense pas qu'il attende que ça aille mieux. Je pense, malheureusement, c'est que il essaye, c'est peut-être une méthode de travail ou je sais pas quoi, mais il essaye plein de choses. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que je pense que c'est un pilote qui se remet peut-être trop en cause, ou au contraire, peut-être pas assez, mais je pense que c'est un pilote qui chaque week-end, il est sur une impression mitigée, sur un truc. C'est ce qui m'inquiète, c'est de le voir arriver en Hongrie, qu'il y a un truc qui se passe pas dans les Libre 1, et qu'on retrouve le Grosjean mine grise et compagnie. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai du mal à dire, c'est peut-être une course déclic, parce qu'on l'a déjà tellement dit. On l'a dit encore au Bahreïn, et derrière, il a plus marqué de points jusqu'au Grand Prix d'Allemagne. Donc voilà. Sincèrement, je croise les doigts parce que en plus on va arriver sur des circuits où c'est plutôt bien comporté passé, le Hungaroring, à Spa, il avait été plutôt pas mal. Ça dépend des jours.
mais écoute, franchement, je me dis bon, la piste n'est pas la même que qu'au Nürburgring, mais au Hungaroring, pourquoi pas. Il y a eu quelques premières victoires qui ont eu lieu au Hungaroring.
Il a été très très bon l'an dernier.
Pourquoi pas? On dit même qu'apparemment il pourrait faire encore plus chaud à Budapest qu'au Nürburgring. Et on l'a vu, hein, clairement, elle aime la chaleur, hein, cette Lotus. Moi, franchement, voilà, en prono, pourquoi pas?
Il avait fait son podium l'année dernière.
Ce qui est génial dans cette course, c'est que ça montre que ce pilote, il a la capacité de pouvoir gagner des courses en Formule 1. Il est de ce calibre-là. C'est vraiment ce qui rend encore plus irritant le reste de sa saison. Il a ça sous la pédale, quoi. Et tout le monde le sait qu'il a ça. C'est ce qui est terrible avec ce garçon, c'est que tout le monde sait qu'il a ce talent-là, tout le monde sait qu'il a cette capacité-là. On a l'impression que c'est le seul qui ne le sait pas. C'est le seul qui est content de faire un podium. Mais non, mais on est tous contents pour toi parce qu'on sait tous que tu l'as, t'en as le potentiel, quoi. Et il y a plus ou moins que lui qui n'y croit pas et Thibault Larue. Et deux trois lecteurs de Fan F1.
Et donc vous l'aurez compris, le vainqueur du classement. Et là encore, on peut dire que ça s'est pas joué à grand chose. Il a marqué 2184 points.
Et rappelons, rassurons quand même les auditeurs, il n'a marqué que 25 points dans le vrai championnat.
Oui. Non, en plus, en termes de points comme ça, cumulés par les votes, c'est pas lui le premier.
Non, c'est un pilote espagnol ?
Je crois que c'est le pilote espagnol, devant le finlandais.
Sincèrement, si c'est Alonso qui est devant les autres, devant pourquoi ?
Oui, c'est ça, et c'est Alonso devant Raikkonen devant
Vettel. Voilà.
Et pas de beaucoup Alonso devant Raikkonen. Il y a même pas 150 points. Donc on a tous les trois mis Vettel premier.
C'est le vainqueur, et il a fait une bonne course. Et... Par contre, on ne sait pas combien de temps il a perdu son Kers, mais bon, il s'est bien battu. Il a fait une bonne course.
Ça relève un peu, parce que c'est vrai que bon, Vettel, on a l'habitude, il part devant, et voilà, il fait la course tout seul. Là, au moins, on peut dire qu'il s'est défendu, parce que vu comment ça revenait très très vite derrière lui, ça change pour une fois. Enfin, non?
Oui, surtout que sur le dernier tour, à mon avis,
il
était à 100% là. Même s'il a pas fait le meilleur temps.
Non, il fait le meilleur temps quand il a du temps. Alors les gars, il reste le tour. Oh là, je vois bien un petit tour rapide là, vous voyez. Oh, la mécanique, on s'en fout. Elle va tenir la voiture, hein. C'est pas genre, on va péter une boîte de vitesse, non. Bah alors, hein, c'est très bien, ça nous arrive vers la Grand Prix. À deux tours de la fin, on est immunisé.
Oui, parce que d'ailleurs, le meilleur tour, c'est Alonso qui l'a fait au 51e.
Ouais, voilà.
Vettel n'a que le 5e meilleur tour. c'est à son 59e tour. Comme quoi, il a quand même dû y aller à fond jusqu'au bout.
Ouais, ça garde ses victoires. Parce que sans Kers, c'est vrai qu'on sait pas exactement quand il le perd. Mais voilà, sans Kers, c'est pas une course facile. Et pour le coup, c'est, je pense aussi, ce qui justifie qu'on le voie premier, c'est qu'il a quand même dû se défendre. Sa victoire a été menacée. Il n'y a pas eu cette impression de facilité. Et je pense que c'est tout ce que je dis sur Vettel depuis l'année dernière, quoi. C'est que je pense que aujourd'hui c'est un sacré pilote, mais qu'il ne sera jugé qu'au regard de la facilité ou de la difficulté de la manière dont il gagne les courses. Soit il les gagne en les atomisant, soit il les gagne en étant serré. Je pense que c'est dans ces deux configurations-là qu'il sera reconnu. C'est un peu le défaut de Vettel, et je crois que Thibault Larue l'a souligné la semaine dernière. C'est un peu ce défaut d'être très fort dans les premiers tours. Et puis derrière, d'un peu gérer la course. Et j'avais déjà dit ça l'an dernier, moi, quitte à dominer, autant qu'il explose, qu'il envoie du bois, quoi. Et c'est vrai que on sent toujours ça chez Vettel, cette volonté d'écraser les autres, le tour rapide, voilà, c'est typiquement le truc de compétiteur. On sent que c'est un peu un compromis entre lui et l'équipe. C'est, voilà, le reste de la course, je contrôle la course comme vous voulez que je fasse. Par contre, à un moment donné, je me fais quand même le plaisir de rappeler aux autres que j'ai bien la meilleure voiture et je suis bien le meilleur sur le tour. Voilà, je vous pète un temps, quoi. Moi, j'aimerais un jour que, une fois le titre peut-être évacué cette année ou un truc dans le genre, j'aimerais qu'on dise à Vettel, t'as carte blanche, tu fais ce que tu veux, quoi. Et qu'il a à mettre 15-20 secondes, parce que je pense que sur certaines courses, il les a facilement les 15-20 secondes, quitte à mettre 15-20 secondes, il écrasera la concurrence. Mais là, je pense que l'écart sera tellement grand qu'on pourra pas dire, c'est grâce à la voiture.
Bah, c'est pas encore gagné cette année.
Non, mais là, aujourd'hui,
d'archi-dominer le championnat.
Sincèrement, sauf cataclysme, j'ai quand même du mal à voir qui sera champion en dehors de lui. Parce qu'on voit bien que la Lotus, elle fonctionne, fonctionne superbement bien, mais il faut quand même des conditions très chaudes. On les aura pas jusqu'à la fin de saison. La Mercedes, quand il y a des conditions très chaudes, c'est elle qui ne fonctionne pas. Et puis bon, voilà, il y a toujours le mystère des pneus. Ferrari, c'est la grosse énigme. Puis de toute façon, là, je pense que le retard commence à devenir quand même assez préoccupant, notamment pour Alonso.
S'ils gèrent normalement.
Ce qu'il faudrait, c'est que je crois que c'est les alternateurs McLaren qu'ils ont cette année, donc il faudrait que c'est que les alternateurs McLaren déconnent à un moment donné ou un autre.
Il est leader du championnat depuis la Malaisie.
Ou que Red Bull fasse un très mauvais travail à Silverstone.
Ouais, techniquement, ils vont pas forcément progresser, hein, ils vont rouler avec les pneus, donc.
Au classement, eh bien, c'est toujours Fernando Alonso qui est premier avec 138 points, devant Vettel, 116, Raikkonen, 115, Hamilton, 108. Au niveau des équipes, Ferrari, 228, Red Bull, 209, Mercedes, 188, Lotus, 158. Dans l'autre classement, Vettel, 157 points, Alonso, 123, Raikkonen, 116, Hamilton, 99 et Mark Webber, 93. Chez les constructeurs, Red Bull est à 250 points, devant Mercedes 183, Ferrari 180 et Lotus 157. 67 points quand même d'avance
et encore, pour Red Bull. Hein. Les problèmes de Weber ces dernières courses, donc c'est-à-dire que sur la physionomie des deux dernières courses, l'avance aurait pu être beaucoup plus grande.
On va passer au fait marquant. En plus, cette semaine, vous aviez 4 choix. Donc, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne? Vous avez été 121 à voter. Merci, hein, de même, encore une fois, merci d'avoir voté au top 10 cette semaine. Est arrivé dernier, avec 8 votes, Vettel, le malchanceux chanceux, avec 6,61%. Derrière les retrouvailles, Weber-Grosjean, 7,44%. À la deuxième place, les courses somptueuses d'Hamilton, Alonso et Raikkonen, 31,4%. Et ma stratégie à payer, hein. Hein, Fab, toi qui m'as accusé de tous les maux, hein. Bah, tu vois, ça a gagné, hein. 54,55% à deux doigts de la catastrophe pneumatique.
Marussia invente la F1 télécommandée.
Tu supposes que donc, quelqu'un télécommande une voiture pour la faire venir sur la piste? Lewis Hamilton, peut-être?
Dino.
Moi, ce sera Hülkenberg dans les points, 2 points, le chant du cygne de Sauber, point d'interrogation.
Ben voilà, tiens, je vais mettre Vettel enfin vainqueur à domicile. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne 2013? Hülkenberg dans les points, le chant du cygne de Sauber, Marussia invente la F1 télécommandée, ou bien Vettel enfin vainqueur à domicile? Passons maintenant au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et cette semaine, rappelez-vous, pourtant il y avait plein de questions intéressantes.
Hein. Et tu sais, j'ai cherché en plus. Et j'ai les réponses.
Ah ah. Donc la question était dans l'univers de Star Trek. Enfin, plutôt, quels sont les deux noms de pilotes, les deux pilotes japonais, dont on retrouve le nom dans l'univers de Star Trek? Alors, Dino, tu as cherché, est-ce que tu avais trouvé des réponses?
Alors, j'en ai trouvé deux.
Oui.
J'en ai trouvé plusieurs, en fait, mais parce que, par exemple, il y a Yamamoto, mais c'est pas lié au film ou à la série, je crois que c'est lié à un truc sur Internet.
Donc, oui, voilà. Non, mais ça, on s'en fout, c'est voilà. Film, série, voilà.
Il y a Kobayashi, pour le test du Kobayashi Maru.
Exactement, parmi les réponses, voilà, que Steve y avait, le Kobayashi Maru, qui est un test, voilà,
dans l'univers. Dont on voit Star d'ailleurs dans le premier Star Trek de J.J. Abrams. On voit justement le test du Kobayashi Maru.
Il y est fait plusieurs fois référence. Pour info, hein, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'univers Star Trek, en fait, c'est un test qu'on fait passer au capitaine de Starfleet, hein, là, et qui est censé être un test insoluble. Le but étant de voir comment les capitaines réagissent. Et dans l'univers de Star Trek, en fait, le capitaine Kirk a réussi ce test.
Mais en trichant.
Ce qui est du cœur que tu as fait.
Oui.
Et sinon, ensuite, deuxième nom, c'est Sato.
Tout à fait.
Il y a dans la série Enterprise, donc la toute dernière série qui a été faite dans les années 2000 avec Scott Bakula, qui reprenait donc les
tout début. C'est une préquelle.
Voilà, qu'un préquel vraiment à l'origine, la rencontre l'arrivée des Vulcains sur Terre et le début
de...
C'est une préquelle à Star Trek.
Voilà. Voilà. Non, non, mais j'explique aux gens ce que c'est qu'une préquelle. Je dis, voyons. la naissance de Starfleet. Et donc, il y a l'enseigne, je crois que c'est une enseigne, non, l'enseigne Sato qui est super mignonne. Et voilà, c'est tout ce
voilà, qui s'occupe des communications.
Voilà.
Alors, j'ai eu une autre possibilité, je vais te la soumettre, tu vas me dire si on l'accepte ou pas.
Moi, j'en avais vu un quatrième, c'était quoi? C'était,
Qu'avais-tu vu? Parce que peut-être que ça va répondre à ma,
ouais, mais
à mon interrogation, tu ne te souviens plus. J'avais eu aussi une référence, alors, au pilote Kazuyoshi Oshino.
Ah, oui, oui.
Qui a participé à deux grands prix. Et il y a, alors c'est Matsuhiro, je crois, Oshino, qui est un acteur et doubleur japonais,
oui.
Et qui a doublé, en fait, le personnage de Jordi Laforge dans la série Star Trek The Next Generation.
Ouais, mais dans la notion d'univers...
Alors la question, voilà, c'est ça, c'est est-ce qu'on considère que c'est dans l'univers Star Trek ou pas?
Bah, pour moi, l'univers Star Trek, c'est surtout l'univers, le monde de Star Trek. Voilà, c'est vraiment le monde, c'est autour de la série. Voilà, moi personnellement, je l'accepterais pas parce que voilà, c'est.
Moi, je m'en réfère à ton avis. Hein. Voilà.
Bah, pour moi, l'univers Star Trek, c'est vraiment comment ça s'appelle le monde de Star Trek.
Dans l'univers fictionnel de Star Trek.
Voilà, c'est l'univers fictionnel. Ce qu'on entend, c'est comme l'univers Star Wars. L'univers Star Wars, c'est l'univers fictionnel de Star Wars. Mm. C'est pas les gens qui gravitent autour ou qui ont doublé ou etc. Mm. Bah, ça n'engage que moi. Si cette personne-là, c'est juste un nom qu'elle a rajouté et qu'elle a les deux autres.
Justement, dans ce choix, il y a Sato et Oshino. Il n'y a pas Kobayashi Maru.
Ah, bah alors, dans ce cas-là, au moins Kobayashi et Sato, il faut les avoir, c'est un minimum. Parce qu'ils sont facilement trouvables en plus. Kobayashi Maru, en plus, ça a été dans les films. Je pense qu'on a tous plus ou moins pensé à Kobayashi en entendant le nom du test. Donc, pour moi, c'est des réponses qui sont obligatoires.
Et puis, c'est pas le moins connu des pilotes japonais.
Voilà.
D'accord. Alors Quentin, parce que il m'avait envoyé une question juste pour de précision pour savoir si on pouvait prendre les noms, les prénoms. Hein, en gros, hein, je lui avais dit non, c'est les noms de famille, hein, parce que sinon. Toi, est-ce que tu avais trouvé au moins une réponse?
J'avais trouvé Sato, mais en fait, je pensais que dans l'univers, c'était que les personnages. Donc Kobayashi, je l'avais trouvé. En fait,
c'est vrai que c'est pour ça qu'on avait dit dans l'univers. On n'avait pas précisé forcément personnage. Très bien. Eh bien. Dino.
On est dans la merde, on n'a pas de réponse.
Exactement.
Donc on gagne un cadeau.
Puisque on avait une seule réponse, c'était d'Adelin. De toute façon, Adelin il répond toujours à tout, Adelin. Il n'y a pas de souci. voilà, c'est pour ça que je n'ai rien dit et que j'ai demandé à Dino con, parce que si.
C'est le moment où on offre un cadeau Sauber, qui aurait pu renflouer les comptes de l'équipe. Et qui aurait peut-être pas devoir commander le cadeau. Mince.
Ah bah non, il est pas gagné, il y a pas de bonne réponse.
Il est pas gagné.
Bah tant pis, voilà. Donc, pour le prochain Grand Prix, ça sera le truc qu'on avait prévu pour le Grand Prix de Hongrie.
Voilà. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs.
Alors c'était une casquette Toro Rosso. Tu sais, très jolie en plus, une casquette en tissu un peu jean,
ouais.
Très sympa. Donc ça, c'est le cadeau pour le prochain.
Faut pas que je te gagne, sinon je vais gagner toutes les casquettes. J'ai gagné la casquette
mais,
Ferrari
mais,
déjà.
Mais alors Dino, il va falloir qu'on trouve une question.
Oui.
Parce que je le dis, je préfère ne pas donner la question d'Adelin pour que comme ça, voilà, il a sa question et s'il veut la réutiliser, il pourra.
Ce que je fais à chaque fois
qu'il y a une mauvaise réponse, je ne dis pas les questions comme ça. Au moins, vous pouvez retenter votre chance avec la question.
Une question pour la Hongrie.
Mais moi, j'ai envie de donner une question, mais super facile, mais tellement facile que vous avez même pas d'excuses pour ne pas donner une réponse, quoi. Vous savez, genre les questions qui passent
en tête.
Mais carrément, mais tu sais, genre les questions qui passent sur TF1 ou France 2, le truc complètement débile, quoi.
Ouais, on pourrait même faire tu sais, vraiment, le prochain Grand Prix de Hongrie se déroulera sur le circuit de petit A, Hungaroring, petit B, faudrait un truc qui sonne pas du tout comme Hungaroring, Suzuka.
Et la réponse D.
Suzuka, voilà.
Voilà. Et vous devez juste trouver la bonne réponse.
Moi, je trouve que c'est une question parfaite.
Bah, bravo. Moi, j'ai dit, allez, top là, j'ai dit, c'est bon, voilà. On y va.
Donc, on vous rappelle la question.
Alors, c'est quoi déjà le cadeau? Ah oui, c'est pour remporter une magnifique casquette Toro Rosso en matière jean originale, vous avez 3 semaines pour répondre à la question suivante. Sur quel circuit se tiendra le prochain Grand Prix de Hongrie? Petit A, le Hungaroring. Petit B, Suzuka. Pour répondre, vous envoyez un mail à l'adresse concours@savf1.fr avec une question pour le Grand Prix d'après, en essayant de trouver une question qui sera un peu plus élaborée que la question suivante. Le prochain Grand Prix se déroulera sur quel circuit? Le Hungaroring ou le Suzuka?
Vous avez 3 semaines, hein?
Pas sûr à les réponses.
Qu'est-ce qu'on ferait pas, quand même?
On veut vraiment que vous gagnez une casquette Toro Rosso. Hein. Ça fait quand même chier, moi, il était beau, en plus. Sincèrement, je trouve que c'était le plus beau cadeau qu'on offrait cette année.
Non, j'aurais pas dit ça, quand même.
Sincèrement, ils sont beaux, les t-shirts.
Mais il était bien, ouais.
En plus, c'est bien, il va bientôt y avoir des soldes sur le truc Sauber. C'est peut-être le moment pour aller faire des courses.
Non, mais c'est bien, Toro Rosso, c'est la boutique Red Bull. Au moins, eux, ils livrent en temps et en heure, sans souci.
Oui. Il y a encore des retards.
Non, je tiens à le dire, parce que j'ai encore eu des mails, notamment d'Adla et tout ça. D'abord, n'oubliez pas, si vraiment ça prend du temps, n'hésitez pas à envoyer un mail. Moi, après, je vous le dis, je le reporte à Steph Core, et lui, parce que c'est lui qui gère le truc avec les cadeaux, hein. Et je tiens vraiment à dire, les délais d'envoi, c'est pas nous, parce que nous, en fait, on passe directement commande, aux boutiques officielles, et voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois, on vous demande l'adresse. Ça, nous, on entre votre adresse, et c'est la boutique officielle, en fait, qui vous l'envoie, comme si vous commandiez, sauf que c'est nous qui commandons et qui payons.
Voilà.
Sauf que, voilà, encore une fois, je dois le rappeler, les délais de livraison pour ces boutiques internet sont juste pas possibles.
Genre, il manquait le cadeau.
Je sais plus, je crois,
alors il y a... Casquette Ferrari.
Ah, et casquette Ferrari, toujours pas arrivé.
Non.
Bien, c'est juste le Grand Prix d'Espagne, ça fait 2 mois, ouais. Ouais, c'est les délais normaux.
Donc voilà, parce que nous, honnêtement, moi, dès que je reçois le mail avec les coordonnées, je le donne à Steph Core, et Steph Core, il commande dans la journée, hein. Il met pas 3 semaines pour commander les trucs.
Oui, d'ailleurs, on profite pour remercier Steph Core et pour remercier aussi tous ceux qui sont derrière ce projet de concours qui nous permettent de vous proposer à chaque émission un cadeau. Et donc, ce magnifique cadeau de fin de saison, quand même, rappelons-le, parce que, ça s'appelle personne n'a gagné de ticket.
Oui.
Mais, quand vous perdez le lot, vous avez quand même un ticket pour le tirage au sort de fin de saison, où vous pourrez remporter ni plus ni moins qu'une réplique à l'échelle 1 du casque d'Alain Prost de 1993.
Bon, il mettra 7 ans à arriver, mais c'est pas mal.
Il sera autant attendre que le titre d'un pilote français.
Voilà. Donc, tu as précisé l'adresse pour le concours, c'est concours@savf1.fr. On vous rappelle, là, en plus, dans les prochaines semaines, il va y avoir des mags, donc il y aura des questions aux répondeurs. Donc, pour poser vos questions aux répondeurs, il y a l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou bien le module audio sur le site savf1.fr. Si vous souhaitez participer à une de nos émissions d'après-course, n'oubliez pas, l'adresse c'est contact@savf1.fr. Est-ce qu'on a déjà du monde pendant 3 semaines?
Alors, de mémoire, j'ai pas encore répondu au mail, mais de mémoire, il y a des candidats pour la Hongrie et pour la Belgique.
Ah oui, donc ça, c'est dans longtemps. Hein,
voilà, donc forcément... après, il y a de la place pour l'Italie, voilà. Bon, portez-vous quand même candidat, hein. Rappelons que n'hésitez pas à vous porter candidat, au pire vous faites recaler, c'est pas trop grave, il y a pire à mon avis. Oui. Pourriez vous recevoir un pneu dans la gueule.
Oui. En larguant. De quoi tu te plains? Tu pourrais te prendre un pneu Pirelli dans la gueule, pleine gueule.
C'est quand même, mine de rien, c'est que qui change ou pas la structure, c'est toujours un truc qui finit dans la gueule, c'est les pneus Pirelli.
Et donc, dans 3 semaines, normalement, il y aurait dû y avoir un Grand Prix entre les deux. Mais non.
le Grand Prix mystère du Grand Prix d'Europe.
Voilà. Mais donc, le prochain Grand Prix, ça sera en Hongrie. Apparemment, il fera chaud. C'est ce qui, peut-être même encore plus chaud qu'en Allemagne.
Il fait tout le temps chaud en Hongrie.
C'est vrai. Non, mais parfois, il pleut.
Oui. Bon, c'est rare. Arrive. C'est rare.
Finalement. C'est rare, mais ça arrive.
C'est rare.
Donc, moi, je l'ai dit.
Fais-moi confiance.
Moi, je mets une pièce, voilà, sur Romain Grosjean. Soyons fous.
Je suis assez d'accord avec toi.
Je mettrai Raikkonen.
Devant Grosjean. Là.
Alors Romain, bon, alors écoute, on t'explique. En fait, tu es plus rapide que Kimi, mais on voudrait juste que tu t'arrêtes. Voilà. Donc tu trouves une heure de stationnement et puis tu fais une petite pause pipi, puis voilà.
Mais attention, juste pipi, hein, parce qu'on veut faire passer que Raikkonen.
On va passer au défi de l'invité.
Ah, et quel défi ?
Oui.
Donc rappelons le concept, hein. Quentin, tu dois nous désigner 7 choses à faire pour un total de 40€, soit le coût d'un abonnement Canal+, quand tu payes pas l'impôt et que, voilà, dans les grandes largeurs. Ce que tu ne payeras pas l'année prochaine, donc.
Donc 40€, j'ai pris 40€ à faire en Allemagne.
Ah, oh.
Donc pour 40€, vous vous trouvez en Allemagne, oh. À Cologne, c'est environ une centaine de kilomètres du Nürburgring. Et sachant que votre budget est réduit, décidez de prendre un petit déj au Maluto. 3,20€. Vous décidez ensuite d'assister au BMX World, toujours à Cologne, pour une entrée à 10€.
C'est quoi ça?
C'est une compétition de BMX.
Ah d'accord.
Mm-hmm. Après toute cette agitation, l'envie vous prend d'en apprendre plus sur cette ville. Passage par la case du musée de la ville et le musée des arts décoratifs. Le tout pour 6,80€. Ça fait deux choses. C'est deux musées.
D'accord.
Amateur d'automobile que vous êtes, vous ne pouvez vous empêcher de faire un tour au Nürburgring pour aller voir la course de DTM avec une entrée à 10€ la journée.
Ça fait rêver.
Mais tu vas comment au Nürburgring ?
À pied, ah. Comme ça c'est moins cher.
100 km à pied, ça use, ça use. Oh putain, c'est des Nike les mecs, merde.
Bon, cela vous donne envie de conduire, mais votre budget est trop serré pour vous permettre de faire un tour sur la célèbre boucle nord. Avec votre Clio.
Non.
Seule
bon, ma Clio.
La seule solution. Vous dépensez donc 5€ pour faire un tour de simulateur.
Ouais.
Il vous reste 5€ et vous ne savez plus quoi faire. Tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes proche de la région des Fèves. Vous êtes nostalgique. Je vous propose de mettre le reste de votre monnaie pour visiter la Tour Eiffel. Et voilà.
Ouais.
Vous avez dépensé 40€.
Alors, précisons juste que le massif de l'Eiffel, c'est pas le massif où est née la Tour Eiffel.
Non. Mais
Non, mais
il y a un lien. Il y a un lien, vraiment.
Ouais, peut-être, mais...
Non, c'est pas peut-être, c'est... Il y a un vrai lien entre le massif de l'Eiffel et Gustave Eiffel.
Oui, ses parents sont nés dans le coin. Et il s'appelait Gustave, oui. Qui vient de l'Eiffel. C'est pas terrible qui vient. On va t'appeler Gustave Eiffel, ça te dérange pas?
Enfin, il avait un nom à consonance allemande, et en effet, ouais, je crois que sa famille.
Il s'est dit, on va rajouter un, ça fera plus français.
Bah oui, mais complètement.
C'est bien connu, deux F c'est français, un F c'est pas français.
Bah oui. Ah, on arrive à la fin de cette émission. On vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook et c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1 et nos différents comptes Twitter que vous pouvez retrouver en page d'accueil de SAVF1.fr.
C'est dit, c'est bon. Je crois que c'est nickel. Voilà. J'ai dit, Diane, là je monte. Bon. Je suis au taquet.
C'est la phrase en mode automatique que je dis toutes les semaines, de toute façon. Donc.
Oui, mais tu vois, c'est un peu comme la pole de Lewis Hamilton la semaine dernière. On te regarde faire et waouh, on est juste admiratif, quoi. On aimerait se le repasser en boucle. D'ailleurs, pour la peine, on va vous le repasser.
On n'exagère pas.
Voilà, on vous le repasse.
Et on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook et c'est sur Twitter avec le hashtag SAVF1 et nos différents comptes Twitter que vous pouvez retrouver en page d'accueil de SAVF1.fr.
Et voilà, tu vois, magnifique performance. Moi, je te... Voilà, c'est... Waouh.
La F1 sur Internet, c'est sûr.
FanF1.com, bien sûr.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille. Ou
la famille.
Gratuit, ouais.
Il y avait autre chose.
Non, c'est bon. Là, c'est
non, bon. Attends, Shinji. Oh, on va trouver. La famille.
C'est la famille gratuite, en couleur, le risque des podcasts.
En plus, c'est le premier.
Oui. Merci, Quentin, de nous avoir accompagnés avant ces petites vacances d'été. Ces premières petites vacances d'été pour la F1.
Vous sentez pas un bon moment?
Oui,
très bon.
Le sujet n'a pas été trop embêtant.
Un peu, mais pas là.
Ah, voilà, tu vois, tu comprends ce que je souffre.
Pas trop.
C'est vrai, je te dis, tu parles trop. T'es vrai, Piplette?
Bah, fais gaffe, les prochains éphémérides. Parce que là, j'ai voulu être gentil. Fais-moi un truc, voilà, 18 ans, un truc, tu vas voir. Tu vas voir.
Ça va nous changer de la chico.
Et on va se quitter. Et je sais pas à quoi ça va ressembler, parce que vu le niveau de préparation de Dino cette semaine... Dino, As-tu préparé un proverbe, un dicton pour finir cette émission?
Parce que je tiens à m'excuser auprès de tous les fans de cette partie de l'émission qui ont pu être choqués par cet aveu de faiblesse de la fin d'émission de la semaine dernière. C'était le trouble de recevoir Thibault Larue qui m'a fait dire des âneries. Je reviens sur mon jugement, c'est vraiment quelque chose de magnifique et merci Fab de m'avoir encouragé à continuer dans cette voie. Voilà, au début, j'étais un peu perdu. Je me disais, tiens, c'est pas compréhensible, on est perdu, c'est n'importe quoi. Mais en fait, avec le temps.
T'as tant de mal à chercher dans Proverbe.fr en ce moment pour que tu balances tout ça.
Donc en ce moment, voilà, je me suis dit, en fait, non, c'est super bien, c'est vraiment un moment fort de l'émission. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui. Ça y est, je vais continuer ça jusqu'à la fin de ma vie. Je ferai les proverbes jusqu'à la fin de ma vie, dans la fin du SAV.
Vas-y, cherche.
Je l'ai, j'ai dit, voyons. Et c'est bien le proverbe suivant. Mieux vaut un paysan en bonne santé qu'un empereur malade. And it's lights out.